C'est marqué dans la Megillah, c'est marqué Ipilpul ou Agora, Lifne Aman. Voici qu'on a fait un tirage au sort devant Aman. Et grâce à ça, on a réussi à déterminer quelle date Aman il avait choisi pour quelle date on allait choisir pour détruire les Bnei Israël. C'était ce qu'avait décidé Aman. Et lui, il a décidé de faire pour cela un pilpoul. Alors c'est marqué dans la Gemara, Alken karaou le yamim haele purim, al shem pour, aussi dans la Megillah. C'est pour ça qu'on a décidé d'appeler cette femme purim, al shem pour, au nom du tirage au sort. C'est-à-dire que cette fête, elle est caractérisée par le fait qu'il y a eu un tirage au sort, et c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Alors sur ça, on sait, nous, que à chaque fois qu'on trouve un nom, que ce soit dans la Torah ou que ce soit dans le langage des Chachamim, on voit toujours que le nom, il est significatif de l'essence de la chose. Donc si, avec tout ce qui a pu se passer à l'intérieur de cette histoire de Purim, la seule chose que les Chachamim ont décidé de garder, c'est le mot Purim. On aurait pu l'appeler d'une autre manière, cette fête, avec tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le Goral, c'est un élément à l'intérieur de la fête de Purim. Pourquoi est-ce qu'on a gardé juste cet élément? Il y a eu plein de choses. Il y a eu la souffrance des ministres, il y a eu le doute, il y a eu la délivrance, il y a eu comment Akhjbouk il a organisé les choses. Il y avait plein de noms à donner à Purim. Pourquoi on a choisi juste le nom qui correspond juste à un détail de l'histoire de Purim, que Aman, plutôt que de choisir lui-même la date, il a préféré faire un tirage au sort. Et à cause de ça, on a appelé Purim. Alors, il faudra déjà comprendre pourquoi est-ce que c'est tellement lié à ça. Et deuxièmement, aussi, pourquoi est-ce qu'on a appelé Purim? Il fallait appeler pour. Pour ces tirages au sort. Purim, c'est au pluriel. Oui. Pourquoi on a dit Purim au pluriel? Il fallait dire pour. Même si on est contre. Ouais. Donc, Et bien sûr, au-delà de ça, de comprendre le fond du problème, de à quoi est-ce qu'il correspond cette notion du tirage au sort. C'est déjà le principe en soi, hein, quand on dit le sort, oui, et c'est ce qui correspond un petit peu au titre de la conférence, quand on parle du sort, oui, on dit que les choses elles se font d'elles-mêmes, ou les choses elles se font par hasard, on dit alors on va faire un tirage au sort. Alors, cette notion-là du mazal, ou cette notion du hasard, on va essayer de voir comment est-ce qu'elle est expliquée par la Torah, les différentes approches qu'on peut avoir à l'intérieur, et ensuite, dans quelle mesure est-ce que ça a des retombées sur notre vie de tous les jours. Alors, le problème, déjà en soi, c'est que bien que tout le monde est d'accord de dire qu'il n'y a pas de hasard dans le monde, vous voyez, et bien qu'on dit qu'on organise tout, alors, mais en soi, la notion du tirage au sort, on voit quand même qu'elle existe dans la Torah. Par exemple, pour Yom Kippour, vous voyez, dans la Vodat Yom Kippour, on doit choisir deux séirim, on doit choisir deux boucs pour faire un pour Akadosh Baruch Hu et un pour la Azazel. Et on voit que pour choisir entre les deux, on doit faire un tirage au sort. Et la Torah, elle ne se gêne pas de faire un tirage au sort. La notion en soi, du goral, n'est pas rejetée par la Torah. De la même manière, pour Chalukat Haaretz, quand les Bnei Israël vont rentrer en Israël et qu'on va décider telle terre pour telle famille, pour telle tribu et ensuite pour telle famille, on voit que le tirage au sort des terres aussi va se faire par un goral. Alors, ça veut dire que cette notion-là, en soi, elle n'a pas été rejetée. Le seul problème, c'est de savoir, dans ce tirage au sort, en vérité, ça correspond à quoi? Qu'est-ce qu'on cherche à savoir au moment où on fait un tirage au sort? Alors là, il y a deux approches possibles. Soit quelqu'un il va dire qu'en vérité, quand on fait un tirage au sort, si on est croyant, c'est qu'on va dévoiler quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu à travers le tirage au sort. C'est-à-dire que quand moi j'y tirais un élément, je dis, c'est ce que Akadosh Baruch Hu voulait me montrer, c'est ça sa volonté, il me l'a montré à travers le sort. C'est comme si quelqu'un il a un dé dans la main. Maintenant, il veut tirer au dé. Il ne sait pas s'il va tirer un 6 ou un 4 ou un 3, il ne sait pas. Maintenant, quand il tire le 6, ce 6, il existait déjà. Potentiellement. Et il va se réaliser parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai seulement réalisé ce qu'Akadosh Baruch Hu, il avait déjà calculé. Ce serait ça le tirage au sort. Ça, c'est la façon de voir des mains minimes, des croyants. Comme ça, on regarde. Pourquoi? C'est que la couverture, elle cache quelque chose, et moi je soulève la couverture. Quand vous jouez au poker, vous cachez une carte. Maintenant, vous allez miser, mais la carte, elle ne va pas changer parce que vous allez miser plus. C'est la même carte. Donc quand vous la dévoilez un quart d'heure après que l'autre, il a perdu 14 kilos, oui. Quand vous la dévoilez, c'est la même que tout à l'heure. Alors l'autre, il dit, quoi, tu m'as mis 74 000 dollars sur un 3. Ouais, mais dans ta tête, c'était un roi. Mais en vérité, depuis tout à l'heure, c'est resté un 3. C'est pareil. Alors, soit on va dire que le mazal, en vérité, c'est simplement que maintenant, on dévoile une chose qui a déjà été décidée par Akadosh Baruch Hu, mais pour savoir quelle est la volonté d'Hachem, on fait un tirage au sort. D'accord? Ou alors non. Ou alors on dit qu'en vérité c'est quoi? C'est que les choses elles se font par hasard, se font toutes seules. Oui? Mais ça c'est difficile à comprendre. Et ça c'est les deux grandes écoles qui existent dans la façon de penser de l'homme. Il y a des gens qui pensent qu'un jour Hou décide, il y a des gens qui pensent que les choses elles se font par hasard. Le problème, c'est que plus la science elle évolue, et plus on a du mal à dire que les choses se font par hasard. Parce que le monde, il est tellement parfait au niveau physique, oui, au niveau chimique, au niveau même de l'astronomie. Il est tellement parfait, il est tellement équilibré, il est tellement organisé qu'on sait très bien déjà aujourd'hui au niveau scientifique qu'on ne peut plus parler de hasard au niveau des... Même en probabilité, on ne peut plus parler de hasard. Avant, on disait, les choses elles se font comme ça et puis ça arrive et Baruch Hashem. Comme ça, il parlait scientifique, vous savez. Oui. Non, il faut comprendre ça. Parce que quand un scientifique il vous dit, par exemple, le monde, il a un potentiel de disparaître toutes les minutes. Parce que le monde, il contient des centaines de phénomènes, et chaque phénomène, à lui tout seul, il a de quoi faire exploser le monde. Par exemple, l'électricité statique qui est cumulée à l'intérieur de l'atmosphère, elle a de quoi faire sauter le monde. Mais Baruch HaShem, il ne saute pas. D'accord? Les différentes dépressions entre le développement de l'oxygène et l'hydrogène à l'intérieur de l'atmosphère, elles ont de faire quoi exploser le monde, mais le monde n'explose pas. La dérive des continents, oui, le magma, vous savez, le magma en fusion au centre de la Terre, il pourrait sortir et casser la Terre en deux, et ben, Baruch HaShem, il ne sort pas. Les étoiles, elles se déplacent dans la galaxie, dans la nôtre, oui, et elles restent toujours à l'intérieur de leur orbite depuis 5 milliards d'années. Et on sait que si une planète, par exemple Jupiter, elle se déplaçait de 10 km de son orbite, on sait que les différentes pressions, elles casseraient la Terre en deux, et Baruch HaShem, elle ne bouge pas. Donc vous voyez, quand vous cumulez une série de hasards, à la fin ça devient embêtant. Donc on est obligé de considérer que, pour ne pas devenir fou, vu le niveau de leur connaissance, les scientifiques sont des croyants. Comprenez ça? Quand quelqu'un il voit quelque chose d'extraordinaire, il voit que ça se perpétue. Ou il est complètement fou, ou il est croyant. Hein? Mais non, puisqu'ils apprennent ça toute la journée. C'est eux qui nous démontrent. Vous comprenez, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de ne pas être croyant, puisque la science, elle prouve que la Torah a raison. Bien que l'origine de la science, c'était justement pour aller contre la religion. Et plus ils apprennent, et plus ils trouvent que la Torah a raison. C'est embêtant. Donc maintenant, en tout cas, il y a ces deux écoles. Il y avait une école qui va être une école de la croyance, que le Goral, le tirage au sort, il vient dévoiler la volonté d'Hachem, et il y aurait une école qui serait l'école du hasard. Mais encore une fois, cette école du hasard, il faudra la mettre de plus en plus entre guillemets, parce que on va tellement recoller les guillemets que il n'y a plus rien au milieu. Où cette école elle est développée? Alors vous regardez aussi dans la Megillah, parce que marqué, Vayaged lo Mordechai et kol asher karaou, et Mordechai, il a dit tout ce qui était arrivé. Oui, quand Aman il a décidé de faire le décret de détruire tous les Bnei Israël, alors Mordechai l'a entendu et il a fait prévenir Esther. Et comment, dans quel mot il lui a dit? C'est marqué Vaigedlo Mordechai, donc il lui a fait dire Mordechai à Esther tout ce qui était arrivé. Kol Asher Karaou. Alors le Midrash il dit là-bas, qu'est-ce que ça veut dire Kol Asher Karaou? Ben Beno Shel Karaou Ba Alechem. Il y a le petit-fils de Karaou qui est venu chez vous. Qui est le petit-fils de Karaou? Alors il dit le Midrash, « Udirtiv, Asher Karecha Maderer. » Celui sur qui il est dit, qui t'a rencontré sur le chemin, c'est qui? Amalek. Amalek, c'est Asher Karecha Maderer, qui t'a rencontré sur le chemin. Alors Ben Beno Shel Karaou, c'est une allusion pour dire le petit-fils de Amalek. Il est revenu maintenant pour régler ses comptes. Qui c'est? Aman. Aman, c'est la descendance de Amalek. Oui. Et lui, il vient maintenant pour détruire les Bnei Israël. Parce que son grand-père, il a pris une tannée par les Bnei Israël à la sortie d'Égypte. Alors maintenant, on dit Ben Shel Karaou. Il dit, mais pourquoi Mordechai, il a juste choisi cette façon de parler pour dire Amalek? Pourquoi il a dit Ben Shel Karaou? Vous avez compris? Parce que quand il a dit Et Kol Asher Karaou, ça voulait dire Ben Shel Karaou, qui correspond au pasouk Asher Karecha Baderer. C'est loin. Pourquoi il n'a pas dit carrément Amalek? Ohmar. Ouais, pourquoi? Pourquoi il a décidé de parler dans ce langage-là, qui est un langage de hasard? Pourquoi? Parce que un des phénomènes les plus significatifs de la notion de Amalek, c'est justement cette notion de hasard. Parce que vous savez que quand vous regardez Rashi là-bas sur place, sur le pasouk, Asher Karecha Baderech, Rashi il donne trois éléments. Il dit Asher Karecha, c'est quoi? La Shon Keri. Keri, ça veut dire une perte de semences. D'accord? Du Zera. Ou alors, Asher Karecha, c'est Mikré, le hasard. Ou Asher Karecha, c'est corps, le froid, il t'a refroidi. Bon, il y a beaucoup de développements. Sûrement, le Rav Atlan, il a déjà expliqué les trois langages au moment de Purim. Moi, je vais m'intéresser juste à un élément. Asher Karecha, Lashon Mikré, dit Rashi, pourquoi? Parce que la caractéristique d'Amalek, c'est justement de dire que les choses, elles se font par hasard. Que HaKadosh Baruch Hu n'intervient pas. Et pour le démontrer, il attaque les Bnei Israël. Toi, tu dis que les Bnei Israël, ils ont été sortis d'Égypte par Dieu. Tu dis qu'il y a eu des miracles. Je vais te prouver qu'il n'y a pas de miracle. Regarde, j'attaque. Ben Beno Shel Karaou. Donc Amalek, qui est de la descendance de Amalek, de Aman, qui est de la descendance de Amalek. Donc lui aussi, il va dans ce principe-là, qu'il voit les événements, mais il ne comprend pas l'intervention d'Hachem. Et c'est vrai, que si on regarde bien la Megillah, on voit hein, que Aman, vraiment, il était aveuglé par sa bêtise. C'est pas possible. J'ai pris un exemple où on voit vraiment que c'est très fort. Vous savez tous que quand Aman il a été mis en colère par le fait que Mordechai ne s'est pas levé devant lui, il a dit je vais le détruire. D'accord, je vais le tuer. Mais je vais pas le tuer lui seul, je vais le tuer tout son peuple. Alors quand il a été pour demander la permission à Achashverosh de détruire, d'accord, juste à ce moment-là, Mordechai il n'arrivait pas à dormir. Juste cette nuit-là, il n'arrive pas à dormir. Et juste cette nuit-là, Aman, il veut aller le voir. Comme il n'arrive pas à dormir, le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il s'ennuie. Alors, qu'est-ce qu'il lui fait? Il demande qu'on lui lise les chroniques. Pourquoi les chroniques? Il pouvait jouer au Monopoly. Oui. Il pouvait jouer aux osselets. Il pouvait aller prendre un bain. Non, il a dit, lisez-moi les chroniques. Quand on lui a demandé de lire les chroniques, alors sur quoi on tombe? Dans toutes les chroniques de toute l'histoire de la vie du roi, qu'est-ce sur quoi on tombe? Sur le fait que Bigtan, ils ont voulu tuer le roi et ils ont été dénoncés par Mordechai. Maintenant, les gens les scribes qui étaient en train de lire ça, eux ils savaient que Aman il n'aimait pas Mordechai, donc ils voulaient pas lire la suite où c'était marqué que Mordechai n'a pas été récompensé. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Il dit le Midrash, quand ils arrivaient, ils sautaient Mordechai. Il disait, bon, alors il y a deux personnes qui ont essayé de tuer le roi, et le lendemain, la mayonnaise était tournée. Il sautait un passage à chaque fois. Alors, comme il sautait, il y a un ange qui les remettait sur la ligne. Il retombait devant Mordechai. Et il sautait, il retombait devant Mordechai. Il dit le Midrash, après ils ont pris une gomme, ils ont gommé Mordechai. Ça se réécrivait Mordechai. Après ils ont dit, on va pas le dire. Alors il y avait une voix qui sortait de leur gauche qui disait Mordechai. Ça veut dire quoi? Ouais. Après ça, il arrive, lui, Aman, juste à ce moment-là, il arrive. C'est quand même un beau hasard. Et dans ce hasard-là, le roi, qu'est-ce qu'il lui demande? Dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire pour un type qui a fait du bien au roi? Aman, lui, il y a un autre hasard, mais ça, c'est déjà moins, une probabilité moins forte, c'est qu'il ait une bêtise extraordinaire. Donc ça, c'était moins un hasard. Ouais. Et il dit, ah ben, c'est sûr que le roi, il parle de moi. Encore une coïncidence. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, faut lui donner le cheval, faut lui donner la couronne, faut lui donner la vie du roi. Qu'est-ce qu'il lui dit, Aman? Fais-le pour Mordechai. Mais là, il voit tout ça. Oui, ça aussi, c'est du hasard. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, il peut nier un événement, vous comprenez? Un événement. Par exemple, vous cherchez un livre partout et vous le trouvez. Bon, vous cherchez quelqu'un à avoir un rendez-vous avec quelqu'un, vous trompez de sortie d'autoroute, vous tombez en panne d'essence, vous rentrez dans un motel et il y a la personne que vous cherchez partout. Vous dites, bon, un événement, c'est un hasard. Mais une série d'événements, il n'y a pas de hasard. Vous comprenez ou non? C'est pas possible que vous. Il tire une balle, elle rebondit là, tac, elle fait tomber le verre. Tu dis, oh, il y a une probabilité sur un milliard. Tu peux encore dire qu'un événement, on comprenne que ça vienne par hasard, on peut imaginer, mais une série d'événements qui se termine avec un certain sens, c'est difficile de voir le hasard. Et quand même, il voit le hasard. Quand même, il dit, ah bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il ne comprend pas qu'on lui montre que ce qu'il a décidé de faire, de détruire le Bnei Israël et de détruire Mordechai, c'est quelque chose de pas bien. Il ne voit pas, il ne comprend pas. Ça, c'est la caractéristique de Aman. C'est-à-dire quoi? Il ne fait pas de lien entre les événements. Les choses, elles se font par hasard. Ça, ça s'appelle Asher Karecha Baderech, qui t'a rencontré par hasard. Ben Beno Shel Karaou, le petit-fils de Amalek, il est venu chez nous aujourd'hui pour nous faire du mal. Et c'est marqué d'ailleurs, va y s'appeler Aman les Gereshishto, oui. Et Aman, il a raconté à sa femme, Zeresh, et à tous ses aimés, et Kol Asher Karaou. Tout ce qui lui était arrivé, encore Karaou, langage de hasard. Il voit pas avec ses yeux. C'est Kriya. Il voit pas. Donc, cette notion-là, on voit que cette notion de hasard, elle appartient vraiment. Elle appartient à Amalek. Le problème, c'est qu'on voit que la Torah aussi, elle utilise ça. Tout à l'heure, on a dit, à propos du Goral, du choix du partage de la terre, on a dit aussi à propos du Azazel, du Seir de Yom Kippour. Mais regardez ici, c'est marqué à propos de Eliezer. Quand Eliezer, il a voulu choisir une femme pour Yitzhak, alors là-bas, c'est marqué Vayomer Hashem Eloki, Eloki Adonia Avraham, et il va dire Hashem, le Dieu de mon maître Avraham, regardez bien, Ikarena Lefana Yayom, qui se présente devant moi, s'il te plaît, par hasard, une femme, et que c'est cette femme-là que je vais prendre. Donc tu vois bien qu'Eliezer non plus, il a employé ce langage-là. Si tu viens chez moi, tu me dis, Asher Karecha, Ben Beno Shel Karaou, je dis, dis-moi, Eliezer, il n'était pas croyant? Ikarena, ça veut dire, présente-moi, mets-toi, débrouille-toi. Ça veut dire quoi? C'est du hasard, la chaîne micrée. Dans route. Route, vateler, vatavo, vatelaket, basade, acharakotrim. Elle a ramassé dans les champs derrière les moissonneurs. Vaikar mikré. Et le hasard l'avait conduite. Chelkat asade les Boaz, dans la partie du champ qui appartenait à Boaz. Hacham et Mishpachat Elimeler, qui était de la famille de Elimeler. Là, c'est marqué. Et un hasard, un heureux hasard. Elle s'est retrouvée dans le champ de Boaz. Donc tu vois bien que la notion du hasard, elle est reprise même dans les choses de Kedusha. Parce que là, c'est le Mashiach qui va descendre ici. Et ça ne dérange pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le hasard, c'est une notion qui est bien, qui est mal. Oui, on la trouve chez le Racha, on la trouve chez le Tzadik. Comment ça va fonctionner? Donc, on est obligé de dire que même si quelque chose, il arrive, bémicré, ce qu'on appelle, le fait que ça se déroule, le fait que ça arrive, ça aussi... c'est organisé par Akadosh Baruch Hu. Alors là, maintenant, il y a un problème qui se pose. Parce que d'un côté, il y a le fait qu'un homme, il doit prendre sa vie en main. D'un autre côté, il y a le fait que les choses, elles sont mises en place par Akadosh Baruch Hu. Alors, où est-ce que la décision de l'homme, elle est? Et où est-ce qu'elle est la décision d'Akadosh Baruch Hu? On ne va même pas parler du projet final. Simplement, dans l'événement, dans la situation en soi, il y a une partie qui est à moi, il y a une partie qui est à Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce que je dois faire moi? Et qu'est-ce qui est à l'intérieur du libre-arbitre? Et qu'est-ce qui est en dehors du libre-arbitre? Et dans quelle mesure Akadosh Baruch Hu il est obligé d'intervenir? Et dans quelle mesure est-ce que moi je suis obligé d'intervenir? Parce que je peux faire les deux ensemble. Soit je peux dire, bon, alors, de toute façon Hachem il va intervenir. Alors je le laisse faire, pourquoi je vais venir moi? D'un autre côté, si je dis, mais si je n'interviens pas, alors pourquoi je suis venu au monde? Ça ne me sert à rien. Si Akadosh Baruch Hu il a tout calculé, il a tout mis en place, alors il n'a qu'à finir l'histoire, pourquoi j'ai besoin d'intervenir moi? Et si je n'interviens pas, ça change l'histoire. Et si j'interviens, ça change l'histoire. Donc j'interviens. Et d'un autre côté, tu me dis non. Mais la finalité, les choses qui vont se mettre en place, ça fait partie du mazal. C'est ce que Akadosh Baruch Hu a décidé. Alors, comment ça marche? Alors les Mefarshim, quand ils parlent du mazal, ils expliquent que mazal, c'est milashon nozel. Nozel, ça veut dire que c'est quelque chose qui descend, qui coule d'en haut. Comment ça marche? Alors, par exemple... Non, avant de rentrer là-dedans, pour vous expliquer un petit peu une notion, parce que c'est un petit peu trop théorique, je vais vous donner un exemple pratique, vous allez comprendre tout de suite. Vous voyez, il y a un appareil, il est là. Et cet appareil, c'est un robot. Et cet appareil, il fonctionne avec un ordinateur. Et cet ordinateur, il est relié à cet appareil, mais sans fil. Maintenant, cet ordinateur-là, il contient un logiciel. Le logiciel, c'est l'intelligence du robot. Donc quand vous programmez le logiciel, vous programmez le robot. Et le robot, il bouge en fonction du logiciel. Alors, on va dire que le logiciel, c'est le mazal du robot. C'est la pré-programmation du robot. Je vous donne encore un autre exemple, vous comprenez encore mieux. Vous savez, aujourd'hui, il y a Internet. Alors, Internet, quand les gens ils veulent figurer, ils veulent représenter Internet, qu'est-ce qu'ils vous montrent? Ils montrent des espèces de traits de lumière comme ça, vous voyez, des réseaux extrêmement complexes qui sont au-dessus dans le ciel et qui vont gérer le monde d'en bas. Alors, vous savez que de plus en plus avec le développement d'Internet, on peut arriver à des phénomènes extraordinaires. Par exemple, on va réussir à faire voir les aveugles. Vous savez ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer un œil électronique, qui va être branché avec, vous savez, les systèmes là de situation par satellite. Oui. Et en plus, avec des sonars. Et en plus, on va éduquer éduquer les sens de la personne par rapport à un certain type de réaction. Et l'œil, il va renvoyer des messages qui vont le situer géographiquement par rapport à l'endroit où il se trouve. Plus le relief, il va être renvoyé dans des sonars, qui va lui-même renvoyer à l'œil. Et l'œil, il va traduire ça sous forme de sensation. Et la personne, elle va percevoir ces sensations. Et elle saura que telle sensation correspond à telle forme, comme telle couleur. De la manière que nous, le rouge, en vérité, c'est la traduction d'une certaine sensation. Le chaud, c'est une certaine sensation. Le grand, c'est une certaine sensation. Le petit, c'est une certaine sensation. Donc, on va tout retraduire avec un œil électronique. Oui? Grâce à quoi? L'Internet. Parce que l'Internet, il va être diffusé dans le monde entier. Et ça va être un réseau, une espèce de réseau transparent qui va gérer le réseau voyant. Ça, c'est un machal pour vous expliquer qu'est-ce que le mazal. Pourquoi? Parce que c'est marqué derrière chaque brin d'herbe, il y a un ange qui lui dit pousse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, au départ, il a créé le monde. Et quand il a créé ce monde-là, il a créé par sa volonté. Mais sa volonté, en vérité, elle se parle, c'est pas une grande volonté qui crée le monde. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé sa volonté. Et cette volonté, elle s'est parcellisée en milliards de petites volontés. Et chaque volonté, c'est un ange. Parce qu'un ange, c'est un kohar qui est véhicule d'une volonté d'Hachem. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il donne sa volonté, cette volonté, elle va s'ouvrir en milliards d'anges qui eux-mêmes sont porteurs de la volonté et qui vont gérer la réalité physique de chaque élément qui fait partie du monde physique. Donc, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde qui est fait pour durer 6000 ans, et que tous les éléments du monde sont interactifs les uns avec les autres, parce que l'eau, elle a une influence sur sur l'air, d'accord? Et l'air, il a une influence sur la mer, et la mer, elle a une influence sur le corail sur les poissons, et le poisson sur les cailloux, et les cailloux sur... Tout est interactif, on sait aujourd'hui en physique que tout est interactif. Donc étant donné que tout est interactif, et qu'il fallait gérer un système au présent qui est interactif à 100%, et le tout sur 6000 ans. Donc quand vous devez calculer toutes les probabilités qui peuvent arriver entre tous les éléments pour que les éléments continuent à se mouvoir et à se développer à l'intérieur du temps, il faut mettre en place un système qui au niveau physique soit posé, qui s'appelle le monde de la matière, et qui au niveau, on va dire, transparent, soit aussi créé, s'appelle le mazal. Le mazal, c'est le logiciel de la matière. Maintenant, les véhicules qui envoient les faisceaux lumineux qui gèrent la matière, c'est les anges. Donc les anges maintenant, ils deviennent les véhicules de la volonté humaine à l'intérieur de la matière sous une forme laser qui s'appelle le mazal. Donc vous avez le monde de la matière et le monde du mazal qui est au-dessus, ce que je vous ai figuré par le faisceau de tous les rayons, de toutes les ondes d'Internet. Vous avez compris, non, à quoi ça sert Internet maintenant? Vous comprenez comment ça marche le mazal. Ici, c'est exactement pareil. Donc si on comprend ça, donc on comprend qu'au présent, il y a une gestion qui est obligatoire, et ça c'est les scientifiques qui vont vous le dire, on ne peut pas imaginer que le monde continue à exister s'il n'est pas organisé, c'est pas possible. C'est trop monde. Maintenant, d'après nous, ça fait 5700 ans que ça marche. D'après eux, ça fait 5 milliards d'années que ça marche. Et ça continue, bon, Hachem. Vous comprenez ou non? C'est quand même un beau hasard. Eux, en vérité, ils croyaient qu'en allongeant l'âge du monde, ça pouvait justifier que le monde s'est fait tout seul. Mais plus tu allonges, moins tu expliques pourquoi il existe encore le monde. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est comme si un type dit, là j'ai tiré 3 balles. Je dis, ben je l'ai pas tué. Oui, moi je l'ai tué, j'ai tiré 11 millions de balles sur lui et je l'ai touché à chaque fois. Et le type il se balade, il va très bien. Tu dis, Eze mazal. Ils se sont plantés eux-mêmes les scientifiques. Eux-mêmes ils ont démontré leur nullité. Eux-mêmes. C'est toujours comme ça. Celui qui parle trop, en général, il finit par dire des bêtises. Surtout quand on ne sait pas pourquoi on parle. Alors, ici, c'est pareil. Si vous avez compris ça, il y a la matière, il y a le mazal, c'est gestionnaire de la matière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, au départ, la notion du déterminisme, elle est obligatoire. Déjà. Vous me suivez ou non? Déterminisme physique, obligatoire. Déterminisme génétique, obligatoire. Les gens, avant les gens disaient, le déterminisme religieux, comment la Torah peut dire que c'est comme ça, tout est marqué. Et la liberté? Aujourd'hui, on sait très bien que le déterminisme, il est à 100%. Tu viens avec ton patrimoine génétique. Que tu le veuilles ou non, tu le portes. Ouais, ils savent même déjà qu'à la naissance, le type, il porte son cancer. C'est rien. Seulement, il est à l'état de graine. Un jour, il va grandir. Génétiquement. Donc, le déterminisme scientifique, il est encore plus grand que le déterminisme religieux. Voyez ou non? S'il n'y a pas de marge. Comment tu vas échapper à ça? C'est cellule. Évolution du patrimoine. Tu peux rien faire. Ça veut dire quoi? Et c'est logique, encore une fois. Akadosh Baruch Hu, il est obligé, puisqu'il a déterminé que le monde, il démarre maintenant et qu'il se termine dans 6000 ans. Pour qu'il puisse durer, il faut faire de la gestion. Comme toi, tu crées une boîte. Oui, imagine-toi, tu dis, moi, je crée ma boîte, mais je fais pas de gestion. Pas de gestion. Pas de compta, pas de gestion. Ça rentre, ça sort, je mets sur une étagère, je vends, je truc, je marque rien, j'encaisse pas, je mets pas d'argent de côté. Combien de temps elle va durer ta boîte? Le temps de mettre la boutique. Tu mets le truc, elle est fermée. C'est fini. D'accord? C'est pour ça que tu l'as appelé dépôt de bilan, d'ailleurs. Ouais. Ils vendent des bilans, c'est un dépôt de bilan. Ouais. Et si c'est comme ça, hein, au contraire, quelqu'un comprend qu'il y a une gestion obligatoire. Donc la prédétermination au niveau physique, elle est logique. Vous me suivez ou non? La manière qu'au présent, il faut que les choses soient organisées. La manière au futur, il faut qu'elles soient organisées. Puisque le futur, c'est le passé du présent. Bon, c'est pas grave. Ouais. Ah, je veux savoir qui est-ce qui suit. C'est important. D'accord. Donc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà on a compris que le fait que les choses s'organisent au présent, elles s'organisent au futur, c'est normal. Et ça, c'est au niveau physique. Alors venez, on va essayer de réfléchir. Pourquoi il y aurait une différence au niveau spirituel? Pourquoi il y aurait une différence au niveau spirituel? Parce que quand déjà vous êtes rentré, regardez bien, dans la notion spirituelle, ouais, de la matière, qui s'appelle le mazal. Après la notion spirituelle du mazal. Vous comprenez ou non? Le transparent du transparent. C'est pas clair. Vous comprenez pas ce que je dis là? Si déjà vous avez vu que le logiciel, regardez, quand vous regardez un logiciel par rapport à un robot, tu sais pas possible, comment une boîte qui est là, elle est là, et le robot il est là, et j'appuie là, il bouge là-bas. Tu dis mais c'est évident, c'est une programmation, c'est logique. Mais si tu regardes un CD, tu le regardes, il n'y a rien dedans. Tu dis, mais c'est pas possible ce truc-là. Où est l'intelligence? Tu dis, l'intelligence est transparent. C'est comme la tienne, elle se voit pas. D'accord? Oui, vous comprenez ou non? C'est comme ça. Donc, ça ne te dérange pas d'imaginer que le système de gestion, il est transparent. De la même manière, ça ne te dérangera pas d'imaginer que le mazal, qui est le mode de gestion, il est transparent. Et il marche très bien. Il fonctionne très bien. Ça, c'est au niveau physique. Et on a compris que c'est obligé d'être au présent et que c'est obligé d'être au futur. Parce que sinon, le monde, il pourrait pas continuer. Donc déjà, on est d'accord que le monde du mazal, c'est une notion scientifique obligatoire. C'est juste la formulation qui change. Oui? Alors si c'est ça, la Gemara dans Nida, d'Avtet Zayin, Amoudbet, elle dit comme ça. Malach hamemune ala irayon. Notel tipa, umar mida lifne akadosh bourkou, veomer lefanav. Au moment où les parents conçoivent l'enfant, il y a un ange, il prend une goutte de zéra de la semence. Oui, du père et de la mère, il l'amène devant Hachem, il dit maintenant, voilà, ils ont fait cet enfant, maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec? Tipazo Matealea, cette goutte-là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors il demande l'ange, Ribono Shel Olam, Tipazo Matealea, qu'est-ce qu'elle va être? Gibor ou Khalash, fort ou faible? Chacham ou Tipesh? Oui, juif ou arabe? Bon. Ashir ou Ani? On va l'enlever de la cassette. Ashir ou Ani, oui. Riche ou pauvre? Veilou racha ou tzadik? Mais racha ou tzadik? Le kama, on dit pas. D'accord? Kedé Rabbi Chanina, Dama Rabbi Chanina, Akol Bidi Shamaim, Chutz Mirat Shamaim, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Bon, tout le monde sait de Gemara. Connaît cette Gemara. Maintenant, on va essayer de réfléchir. Donc, à quel jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais déterminer tout le monde physique, mais je vais pas déterminer le monde spirituel. Alors d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il était obligé de calculer toute l'existence du monde au niveau physique. Donc il a déjà calculé, puisque encore une fois, tout est lié, vous comprenez, que l'eau, elle va amener la vapeur qui va amener la pluie, qui va amener la rivière, qui va amener le fleuve, qui va amener l'humidité, qui va amener la graine, qui va amener la plante, qui va amener l'arbre, qui va amener l'ombre, qui va amener l'humus, qui va amener le... Vous voyez bien que tout ça, c'est interactif. Donc, quand Akadosh Baruch Hu a calculé le départ, il est obligé de calculer la fin. Au niveau physique, ça va, ça vous pose pas de problème. D'accord? Voilà. De la même manière qu'au niveau universel, c'est comme ça, au niveau personnel aussi, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que vous prenez une personne devant vous, vous avez une personne, un corps physique. D'accord? Ce corps physique, il vient bien de quelque part. C'est que le monde, il contient exactement le même nombre de molécules depuis la création du monde. Vous savez ça? Rien ne se perd, tout se transforme. Donc, par exemple, ce magnétophone-là, il contient du plastique qui lui-même avant était du goudron. Ce goudron, il était des carbones qui ont été compressés, qui eux-mêmes ont été une forêt. Vous voyez comment on remonte? De la même manière, tu manges une carotte aujourd'hui, mais cette carotte, elle vient de la terre. Peut-être c'est un cimetière, cette terre-là, où il y avait un type qui a été enterré là-bas. Donc quand tu croques, tu penses à lui. Rien ne se perd, tout se transforme. Est-ce que vous comprenez ça? Alors si c'est comme ça, quand on dit que quelqu'un, est-ce qu'il va être gros ou est-ce qu'il va être maigre ou est-ce qu'il va être grand ou est-ce qu'il va... Il faut bien qu'on calcule tout ça. Puisque les molécules qui vont servir à faire son corps, elles viennent de quelque part. Et aussi elles seront réutilisées quelque part. Donc de la même manière que cet arbre-là, il a une prédétermination au niveau physique qui est nécessaire parce que l'avenir, c'est la suite du présent. De la même manière, le corps physique aussi, il a une prédétermination obligatoire. C'est clair? Puisqu'il n'y a rien de se perd, tout est calculé au micron. Oui? Mais de la même manière que le corps physique, il a une prédétermination, mais aussi les moyens qui vont être nécessaires au corps physique pour s'épanouir, ils sont aussi prédéterminés, puisqu'il faut qu'il se développe avec, comment on appelle ça? La parnassa. C'est quoi la parnassa? La parnassa, c'est l'ensemble des éléments qui sont nécessaires à un homme pour faire son épanouissement spirituel. Maintenant, dans la parnassa, les gens, ils croient que la parnassa, c'est l'argent. Il n'y a pas que l'argent dans la parnassa. Quelqu'un y prie à Rosh Hashanah. Vous savez, si vous prenez certains mazmorim, en haut de la page, à côté de Bessiata Ishmaïa, il y a un petit carré. Vous n'avez pas vu ces mazmorim? C'est pour marquer votre numéro de compte. Pendant la Hamida. Oui. CCP 45. Il y en a qui oublient. C'est comme ça, oui. Shiviti Hashem, Keneged Abank. Toute la journée. Parce que les gens, ils croient que la parnassa, c'est l'argent. Mais la parnassa, c'est pas que l'argent, il faut être un peu racham. Parce que l'argent, tu l'as eu comment? Parce que tu as vendu un produit. Où ça? Dans une boutique. À qui? À un client. Parce qu'il y avait un besoin. Qui c'est qui a créé le besoin? Qui c'est qui a créé le client? Qui c'est qui a créé le produit? Qui c'est qui a créé la banque? Qui c'est qui a créé la boutique? Donc la parnassa, c'est un mélange complexe de l'interaction entre tous les besoins du client, du vendeur, de la banque. Et c'est la parnassa des uns et des autres qui va ensemble. Si vous comprenez ça, vous comprenez ou non? Toujours je vous donne l'exemple du djinn parce que c'est plus facile à comprendre. Vous vous rappelez de l'exemple du djinn ou là?
C'est la parnassa avec quoi?
C'est pareil, regarde. Un homme il veut vendre des djinns. Il dit tiens, je veux vendre des djinns. Maintenant, pour faire une marge sur le djinn, il faut que le djinn il soit à un certain prix. Mais pour que le djinn soit à un certain prix, il faut que le coton il soit à un certain prix. Mais pour que le coton il soit à un certain prix, il faut qu'il y ait la dictature là-bas, dans les cultures de coton. Parce que sinon le coton va être très cher. Donc il n'est pas cher parce qu'il y a la dictature au Congo, où on cultive le coton. Mais pour qu'il y ait la dictature au Congo, il faut que les Américains soient intéressés à ce qu'il y ait la dictature, parce que eux, ça leur permet de vendre des armes. Mais pour que les Américains ils vendent des armes, il faut qu'ils aient un compromis avec les Russes, que les Russes ils peuvent les vendre à l'autre qui est en face du Congo. Et pour s'arranger avec les Russes, il faut d'abord qu'ils soient d'accord que la technologie israélienne, elle dépasse pas la technologie russe pour pouvoir acheter les armes qui sont faites par les Israéliens au profit de l'Amérique qui les vend au Congo pour mettre la dictature qui baisse le prix du coton. Mais ça dépend. Est-ce que Israël va développer les centres de sanatothérapie en face de Gaza? D'accord? Et regarde comment tu remontes. Je sais pas si vous avez fait un peu de politique, vous comprenez ça? Donc de la même manière qu'il y a une interaction à l'intérieur des molécules, il y a aussi une interaction à l'intérieur de la politique. Et c'est lié. Donc en vérité, quand tu regardes le coton de ton jean, il y a à peu près 30 ou 40 millions de personnes qui sont impliquées dans ce jean. C'est pareil. Il n'y a pas de question. Ouais. La manière, le bouton. La manière, le fil. Dans chaque chose. Tu dis, hop. Bah, au crachem, on a de la matière première pas chère. Mais pourquoi? Parce qu'il y a la misère au tiers-monde. Même Nike, ils fabriquent leur basket dans des pays. D'accord? Où le type, il gagne 40 francs par mois. Et toi, tu payes une paire 400 francs. Ouais. Ils appellent ça la liberté. C'est extraordinaire. Nous, on appelait ça l'esclavage à l'époque, mais ça change tellement vite. D'accord? Donc, si vous comprenez ça, Vous comprenez que la parnassa, qui est l'organisation des moyens physiques qui sont nécessaires à ton épanouissement, c'est aussi organisé. Et c'est normal. Puisque de ta parnassa, elle dépend la sienne, elle dépend la tienne, la tienne, elle dépend l'autre, l'autre, elle dépend l'autre. La banque, le client, le transporteur, le fabricant, le porteur, tout le monde est impliqué dans la parnassa. Vous comprenez ou non? Ça aussi, c'est une organisation. Donc c'est aussi, c'est un mazal. Donc il faut bien le décider. Oui? L'intelligence, c'est pareil. Il faut des intelligents dans le monde. Mais il faut aussi des imbéciles, vous savez ou non ça? Ben là, il y a une grosse question que les philosophes se posent depuis longtemps. Qu'est-ce qui justifie? Est-ce que c'est les imbéciles qui justifient l'existence des intelligents? Ou c'est les intelligents qui justifient l'existence des imbéciles? Par exemple, s'il n'y avait pas d'imbéciles, tu ne saurais jamais que tu es intelligent. D'accord? Si avec des intelligents, tu n'aurais personne à impressionner. C'est une loi. Je ne sais pas s'il y en a, parmi vous qui ont déjà fait de la stratégie commerciale. Il y a une loi en stratégie commerciale. Tant qu'il y aura des malins, il y aura des imbéciles. Parce qu'il y a des gens enroulés. Et tant qu'il y aura des imbéciles, il y aura des malins. Parce que l'imbécile, par sa bêtise, il pousse à la création du malin. Quand tu vois l'imbécile, tu as envie d'être malin, c'est comme ça. Tu peux pas, c'est trop beau. T'as compris? C'est comme si tu dis à quelqu'un... D'ailleurs, il y a un type qui était en procès il n'y a pas longtemps. Il devait changer un dentiste, il devait changer un dentier à une femme. Vous savez qu'en France, il y a les anciens francs et les nouveaux francs. Alors, là, elle lui a dit 4000 francs. Alors, elle a dit 400 000 francs. Il a dit oui, 400 000 francs. Et elle est revenue le lendemain avec 40 briques pour payer un dentier. Bon, il est en prison maintenant, vous me direz le type. Hein. Mais bon, il y a des tentations des fois qui sont trop fortes. Comprenez ou non? C'est ce qu'on appelle le syndrome du pas. Tu peux pas échapper. Quand tu vois ça devant toi, tu peux pas. C'est trop dur. Ouais. Alors si c'est là, si vous comprenez ça, donc il y a des intelligents, il y a des imbéciles dans le monde. Et là aussi, il y a une conformité d'équilibre très, 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 très forte. Oui. Parce que les gens, ils disent, bon, il en faut, c'est les riches et les pauvres, c'est pareil. Oui. S'il n'y avait pas de pauvres, les riches, ils iraient tous au Guéhinnom. Oui ou non? S'il n'y avait pas de riches, les pauvres, ils n'auraient personne à insulter le soir. D'accord. Donc c'est très, très... C'est très logique tout ça. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Ce qu'on voit en vérité, c'est qu'il y a deux choses qui n'ont rien à voir et c'est ça qu'il faut comprendre. Imaginez, de la même manière, au lieu de regarder le monde comme un long fleuve tranquille, vous regardez le monde comme des petits wagons. Chaque jour comme un wagon. Il y a un wagon, un wagon, un wagon. De la même manière que vous regardez ce wagon et que ce wagon, il est automatiquement le huitième wagon avant le neuvième et après le septième, et vous le comprenez, dans la loi physique, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'interaction du monde physique, d'accord? Donc, de la même manière qu'il y a une logique, une hiérarchie dans le monde physique, puisque chaque chose pousse l'autre, de la même manière, il y a aussi une hiérarchie dans le monde physique au niveau des corps. Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il y a 6000 ans, il y a 5700 et quelques années, il a calculé la création du monde, il a été obligé de calculer l'évolution du monde physique, puisque c'est interactif, d'accord? Et au présent, au futur, c'est pareil. Et aussi, l'interaction des mondes physiques au niveau des corps. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que Hachem, depuis 5700 ans, il a déterminé les corps. Mais il n'a pas déterminé les personnes, et il n'a pas déterminé les âmes qui allaient être à l'intérieur de ces corps-là. Est-ce que vous me suivez? Comme des petits wagons. Parce que étant donné que ce corps-là, en disparaissant, il va donner tel nombre de molécules qui elles-mêmes vont avoir une telle... Donc, obligé de calculer ses corps. Oui ou non? Donc, des parents, ils décident de mettre un enfant au monde. Pshacha. Attends, je vais expliquer. Il faut juste me laisser la nuit et je vous explique tout. Quand les parents, ils mettent l'enfant au monde, ils décident de faire un corps. Ce corps-là, il va naître d'une certaine combinaison génétique entre des gènes de la mère et des gènes du père. Et quand il y a des gènes... Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que maintenant, cette interaction, elle va faire un enfant. Alors, un enfant qui est gros, qui est petit, qui est mince, qui est genre... Oui, mais ça va dépendre des éléments qui vont être nécessaires, mais à un autre niveau. Alors là, maintenant, on est obligé de superposer un autre élément qui s'appelle la différence entre le regard d'Hachem et le regard de l'homme. Pourquoi? Vous voyez, quand vous regardez, par exemple, une pièce, et que cette pièce, elle est fermée par une fenêtre. Le fait que la fenêtre soit petite, ça ne veut pas dire que le décor dehors, il est petit. Ça veut dire que de ce côté, le décor, il est petit, parce qu'il est, vous le voyez petit. Mais quand vous le regardez de l'autre côté, il peut être très grand. Alors, de la même manière, il y a le monde physique avec le regard de l'homme et il y a le monde spirituel avec le regard d'Hachem. Alors, il y a deux aventures qui n'ont rien à voir. Il y a une aventure physique qui s'appelle le monde physique et les corps et il y a une aventure qui s'appelle le monde de l'âme. Maintenant, les deux, ils vont se superposer Parce que les âmes, elles doivent venir dans un certain, regardez bien, dans un certain corps, dans une certaine personnalité, pour un certain temps, et rencontrer d'autres personnalités dans d'autres corps et dans d'autres âmes. Maintenant, on va regarder bien. Maintenant, il y a deux façons de regarder. Je vais regarder au niveau humain. C'est un siman, ça. Si je regarde au niveau humain, ouvrez bien vos oreilles, c'est très très important. Si je regarde au niveau humain, alors je vais vous donner un exemple physique, comme ça vous allez comprendre, parce que sinon c'est trop abstrait. Vous voyez, un enfant, on l'emmène à l'école. Alors à l'école, l'enfant, on lui donne une classe, on lui donne un professeur, on lui donne un programme, on lui donne un cahier, on lui donne un livre, on lui donne un stylo. Il a tous les éléments. Il manque une chose. Ce qu'il va faire avec. Imaginez l'enfant, il vient à la fin de l'année, il dit « Papa, j'ai laissé le cahier, le livre et tout sous plastique, impeccable, tout neuf !» Qu'est-ce que vous faites ? Tréha. Tu dis « Mais t'es malade, je t'ai payé l'école, je t'ai payé le stylo, je t'ai payé le cahier, je t'ai payé le livre, pour quoi faire ? Pour que tu les uses, tu les reuses, tu les transperces de travail et que tu deviennes, grâce à ça, un bon élève. Tu n'es pas fait pour que tu gardes. Comprenez ou non ? C'est comme des fois, vous voyez des gens... Ils veulent pas user leur cerveau. Ils le gardent. Ils veulent jamais réfléchir. Jamais! Ils appellent ça la prise de tête. C'est une maladie. D'accord? Ils veulent pas se casser la tête. Ils ont un cerveau qui est tout neuf. On dirait qu'ils le gardent pour un autre Gilgoul. Tout neuf! Tout neuf! Il a jamais servi. Vraiment, hein? Emballé, double tour. C'est pareil. Une fois, j'ai dit dans une conférence. Vous savez ce que c'est un rachat? Un rachat, c'est un tsadik qui est resté dans l'emballage. Comprenez ça? C'est un sadique, mais il n'a pas été déballé. Il est resté dedans. C'est comme un type, il creuse une montagne avec ses doigts, il creuse comme un brel, il s'arrache les doigts, il creuse. Et ça fait des années qu'il a reçu un paquet, il n'a jamais ouvert, et dedans il y avait une pelle. Alors quand il a fini de creuser son tunnel, il ouvre le paquet, il dit maintenant j'ai du temps de libre, il sent la pelle, il n'y a plus rien à faire, alors il accroche au mur, il la regarde. Et les doigts ils sont usés jusque là. C'est pareil. Si les parents, ils ont donné des moyens, c'est pour qu'ils soient utilisés, pour qu'ils soient usés. Ces moyens, ils sont physiques pour que l'être, regardez bien, psychologique de l'enfant se réalise. C'est ça le but. De la même manière, à Kadosh Baruch Hu, Avinu Sheva Shamaim, il nous donne des moyens physiques pour que notre être transparent, qui s'appelle notre âme, elle se réalise dans le monde. Ça s'appelle la Tset, Minakoar et la Poal, passer du potentiel au réel. C'est un machal, d'accord? C'est la même chose. Maintenant, étant donné que le but, c'est la réalisation de l'âme. Et que l'âme, elle est unique. Vous savez que chacun d'entre nous a une âme unique. C'est quoi une âme? On va dire en gros, on va dire en gros parce que ça serait trop court. Si on expliquait, on va dire comme ça. Léna. Regardez bien. Regardez bien. Ne me tente pas, s'il te plaît. Alors, donc, regardez bien. Je vous donne encore un exemple, vous allez comprendre. Vous voyez, H2O, c'est H2O. Ça, c'est de l'eau, d'accord? Alors, vous allez dans un café, vous deux H2O et une bière. On parle pas comme ça. Mais on sait qu'H2O, ça veut dire de l'eau. Alors, c'est quoi H2O? C'est deux molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène. Alors, voyez, avec trois éléments, on a réussi à constituer une combinaison qui forme de l'eau. Alors, de la même manière, le machal, Akadosh Baruch Hu, il contient ce qu'on appelle des nitsutsot, des étincelles, qui sont des éléments divins. Maintenant, avec des éléments divins différents, on peut fabriquer des centaines de combinaisons possibles. Maintenant, chaque âme, c'est une combinaison d'éléments divins. Pourquoi? C'est marqué dans le Zohar que Akadosh Baruch Hu, il a coupé un coin de son manteau et avec ça, il a fait les âmes de Béni Israël. Alors maintenant, ces âmes-là, elles sont séparées d'Akadosh Baruch Hu parce qu'elles sont dispersées à l'intérieur des corps humains. Elles font leur travail et elles vont revenir à la fin des temps. Shuvu Lachem, d'accord? On va revenir à Akadosh Baruch Hu et faire un à nouveau avec Akadosh Baruch Hu. Mais en attendant, ces âmes-là, qui sont des éléments divins, c'est une étincelle divine, l'âme, ce sont des éléments divins, elles sont dispersées à l'intérieur du corps. Alors regardez bien maintenant. cette âme, elle, elle est unique. Chaque Ben Israël, il a une âme unique. Puisque c'est une combinaison d'éléments divins qui est unique. Parce qu'on peut faire H2O, H3O, H4O, H2O3. On peut faire des milliards de combinaisons avec des éléments chimiques. Kol ha'olam mashalim. Le monde physique, c'est des exemples pour comprendre le monde spirituel. Comme ça dit le Zohar. D'accord? Donc, quand vous avez une âme qui est unique. Alors, cette âme-là, elle a, au-dessus, elle a un nefesh. Le nefesh, c'est la personnalité. Qu'est-ce que c'est? C'est le système d'exploitation de l'âme. Windows. Il y a le DOS et Windows. Ça, c'est les juifs. Les autres, c'est TOS. D'accord? Donc, si vous comprenez ça, si vous comprenez. Alors maintenant, la nefesh, c'est le système d'exploitation de l'âme. Après, dessus, il y a le corps. Le corps, c'est quoi? C'est le système physique. Ça veut dire, c'est les instruments de la personnalité et de l'âme. Après, vous avez le vécu, c'est le domaine d'application du physique, du psychique et de l'âme. Maintenant, c'est marqué dans la Gemara, Keshem Shepartufem Shonot, Kardartem Shonot. De la même manière que les esprits sont différents, les corps sont différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps physique, il est adapté au corps psychique, au psychique. Et le psychique, il est adapté à l'âme. C'est comme les poupées russes. Vous avez les poupées russes? Vous avez une poupée. Dessus, vous mettez une deuxième poupée, troisième poupée. Elles sont moulées les unes dans les autres. Donc, regardez bien, le psychique, il est adapté à l'âme. Parce que c'est le système d'exploitation. Le physique, il adapte au psychique et à l'âme. Panim, arizepnim, la Gemara dit. La face, c'est l'intérieur. Donc quand tu vois quelqu'un, tu vois son intériorité. Puisque ça moule. Quand vous voyez, par exemple, un drap qui est sur un ballon, quand vous regardez ça, qu'est-ce que vous dites? Il est sur une bouteille. Il est sur un ballon. Parce que le drap, il a pris la forme du ballon. Le corps, il prend la forme du psychique. Donc quand tu regardes le corps, tu comprends le psychique. Oui ou non? De la même manière que le psychique, il colle avec le nefesh, le neshama, parce qu'il a adapté ses systèmes d'exploitation. Et le vécu, c'est la projection du corps, du psychique et du vécu. Et du... Quand tu prends un objet qui a été créé par une personne, quand tu regardes l'objet, s'il est fin, s'il est construit, s'il est réfléchi, tu comprends que la personne, elle est fine, elle est construite, elle est réfléchie. S'il est grossier, il est maffé, il est tordu, donc tu sais que c'est quelqu'un qui n'est pas entier. Donc tu sais qu'il y a quelqu'un qui finit pas les choses. Donc tu sais qu'il y a quelqu'un qui a pas de finesse. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. C'est quelqu'un qui n'a pas été entretenu dans sa force de créativité. Donc c'est quelqu'un que sa mère ne l'a pas laissé s'ouvrir, que son père ne lui a pas donné la parole, que son père ne lui a pas donné la force d'affirmation, qu'il n'a pas été au bout de sa personnalité. Tout ça tu le sais à partir de sa création. Donc l'objet, donc le vécu projette la personne, le corps projette la personne, le psychique projette la personne, et l'âme, elle est à la source de tout ça. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il va décider de quel neshama on va mettre à l'intérieur de tel corps, le corps, il est adapté à la neshama au corps. Pourquoi? Puisque le corps, c'est les outils pour la neshama. Or, un mineur, on lui donne des outils de mineur. Un boulanger, on lui donne des outils de boulanger. Donc si moi, j'ai envie que tu sois boulanger, je te donne des outils de boulanger. Donc maintenant, Akadosh Baruch Hu, quand on regarde l'aventure du côté divin, donc Akadosh Baruch Hu, il est intéressé à ce que cette âme-là fasse tel travail, on dit un tikkun, elle fasse tel travail dans ce monde. Mais pour faire ce travail, elle a besoin d'un outil psychique. Donc on va lui donner certaines personnalités. Alors là, on va lui donner une force d'analyse, une force de sensibilité, une force d'équilibre, une hypersensibilité ou le contraire. Tous les éléments qui constituent sa personnalité, qui sont les éléments de son système d'exploitation de son âme, vont être adaptés à sa mission. C'est-à-dire que celui qui est en hypersensibilité, c'est parce qu'il a un travail à faire par rapport à la sensibilité. Vous comprenez ou non? De la même manière, on va lui donner aussi un certain... De la même, on lui a donné donc des éléments psychiques, on va lui donner aussi des éléments physiques. Celui-là, il est gros, celui-là, il est maigre. Donc celui qui est gros, par exemple, il va avoir un certain complexe de sa taille, parce qu'il a un certain travail à faire par rapport au complexe. Toujours par l'inverse. C'est comme tu dis, il est mauvais en maths, je donne plus d'exercices. Mais pourquoi tu donnes plus d'exercices puisqu'il est mauvais? Parce que je veux qu'il soit bon. Donc, les outils de l'épanouissement de l'être intérieur qui s'appelle l'âme, on va appeler le corps physique, et le vécu pareil. Le décor, toi tu viens dans une vie, tu arrives, tac, t'as un diapo. Comme quand vous passez le code. Je sais pas, on passe le code ici, le code de la route. Donc, qu'est-ce qui se passe? On vous met un diapo, on vous dit qu'est-ce que vous faites dans telle situation? Et vous devez dire, on fait ça ou on fait ça? Eh ben, imagine-toi, toute la vie, c'est une série de diapos. Et ces diapos-là, ils vont être pour toi l'école de l'épanouissement personnel, ce qu'on appelle le Nisayon. Donc, toi, tu as en face de toi une série de diapos qui est aussi prédéterminée puisque les diapos, c'est les exercices qui sont adaptés à ton travail avec les outils qui s'appellent physiques et les outils qui s'appellent psychiques pour le tikkun de la neshama. C'est facile à comprendre, oui ou non? Pour l'instant, ça va. Donc, puisque au départ, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de mettre tel neshama à l'intérieur de tel corps, donc il a bien fallu qu'il détermine aussi les éléments pour que tu puisses utiliser ça. Donc, au moment de la conception par les parents, on va regarder dans quel état d'esprit ont fait les parents, quelle est l'ambition des parents, et par rapport à ça, on va déterminer une âme qui elle-même, pour venir faire un certain travail, elle aura besoin d'outils psychiques, d'outils physiques, d'outils psychologiques. Elle aura aussi besoin d'un certain temps, parce que le temps aussi, c'est déterminé. Le jour de la mort, c'est déterminé. Les nishyonotes, ça va être calculé. Tout ça en fonction du travail que la personne a à faire. Or, rappelez-vous de cette règle. Quand t'es mauvais, t'as beaucoup d'exercices. Quand t'es bon, t'as pas beaucoup d'exercices. Pourquoi? Vous voyez ça? Regardez bien. Niftar, c'est quoi veut dire, quoi niftar? Quand on dit quelqu'un, il est niftar. Ça dit, il est mort. C'est-à-dire niftar, en vérité, le mot niftar. Il veut dire qui est patour. Niftar, c'est niftar mina mitzvot. Il est exempté des mitzvot. Un mort, il est exempté des mitzvot. Oui ou non? Maintenant, quand quelqu'un vient au monde, c'est pour faire les mitzvot. Les mitzvot, l'onitnu Torah mitzvot et la letzaref et taberiot. Un homme, on lui a donné la Torah et les mitzvot, il dit midrash tan chuma, c'est pour pouvoir. Non, pour pouvoir assainir son être. C'est quoi assainir? Quand vous prenez un métal, il y a des impuretés, et dans un minerai, il y a des impuretés, il y a du métal. Vous faites fondre, et les impuretés, elles flottent, vous enlevez les impuretés. Et ben, le travail de la Torah et les mitzvot, c'est pour quoi faire? C'est pour justement séparer les impuretés du métal. Assainir le métal. L'onitnu Torah mitzvot, et là, les tsaref, milashon siruf, oui, est à période. Alors maintenant, un homme donc, il a une série d'épreuves qui correspond exactement au travail qu'il a à faire. Maintenant, niftar, ça veut dire qu'il n'a plus besoin d'épreuves. Parce qu'il n'a plus besoin, parce qu'il a fait son travail, il est mort. Mais patour, ça veut dire aussi qu'il est exempté du travail. Oui ou non? Donc ça serait exactement l'inverse de ce qu'on pense. Par exemple, nous on voit un handicapé mental. Oui, on dit, oh, il est patour des mitzvot. Il est patour, mais sugar. Il est patour. En vérité, c'est parce qu'il en a moins besoin que moi. La preuve, le Hazonish, il se levait devant les Mongoliens. Il se levait devant un Mongolien. Tu dis, mais attends, c'est un type, je comprends bien, un brelfini. Un Mongolien, c'est une très grande Neshama. Et pour pas que cette Neshama, elle prenne le risque de se détruire dans cette expérience, on l'a mis dans un corps où elle prend pas de risque. Pareil pour les autistes, pareil pour les handicapés. L'inverse de ce que nous on dit, c'est un sous-homme lui. Mais non! Celui qui a pas d'exercice, c'est qu'il a, il a un très haut niveau. Qu'est-ce qui a besoin de beaucoup d'exercice? Celui qui est nul. Qui c'est qui fait la classe de rattrapage? Le bon ou le mauvais? Le mauvais. Comment s'appelle la classe de rattrapage? Le Gilgoul. Comprenez ou non? Donc quand tu dis niftar ou tu dis patour, ça veut dire celui qui n'a pas besoin. Pas celui qui c'est pas la peine qu'il les fasse. Parce qu'il est incapable. C'est parce qu'il n'en a pas besoin. Donc nous qui sommes hayevim des mitzvot, c'est que nous avons beaucoup besoin. 613 mitzvot par jour pendant 120 ans. Ça fait des exercices tout ça. Hein? Si c'est comme ça.
C'est pour ça des fois que...
T'as pas un caillou ou quelque chose? On verra après si vous voulez. C'est moi. Vous m'appelez? Non, parce que là, regardez, là, on est à peine là. Regardez ce qui reste. Je suis obligé de faire semblant de vous expliquer tout, donc. Alors, si c'est comme ça, hein, on comprend pourquoi la Gemara, elle dit dans Moed Katan, Dav Kafret, Bene, Chayi ou Mezone, Lo Besrut Atalia et la Bamazala. Les enfants, la vie et la Parnassa, ça ne dépend pas du Srut, ça dépend du Mazal. C'est quoi le Srut? Le Srut, c'est le fruit de l'homme. Le mérite, c'est l'homme. Le mazal, c'est prédestiné. Alors, mezona, le mazon, la parnassa, que ça dépend d'Hachem, on a compris pourquoi. Interaction. D'accord? Les enfants, que ça dépend d'Hachem, c'est normal. C'est pas toi qui décide. Qui c'est qui doit venir à tel moment, à telle période, dans telle vie? C'est pas toi qui décide. Chaye, la vie, combien tu vis ou tu meurs? Combien de temps ça dure? C'est pas toi qui décide. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a une interaction dans l'action, il y a aussi une interaction dans la matière, il y a aussi une interaction dans le temps. Vous savez, les gens, ils disent, oh, quand même, cette personne-là, elle est morte jeune. Celui-là, elle est mort vieux. En vérité, c'est débile, c'est vrai à dire. Quand vous dites, il est mort à 80 ans. Oh, l'autre, il dit, il est mort à 20 ans. Vous vous rendez compte, il est mort à 20 ans. Mais ça veut rien dire. Pourquoi? Parce que la personne, le jour de sa naissance, même le jour de sa conception, on décide la date de sa mort. Donc, quand le type, il a 19 ans, quand il doit mourir à 20 ans, il est très vieux. Hein? Qui c'est? Oui, Hachem, il décide. Ah, je vais vous expliquer pourquoi, mais après vous comprenez. Ça veut dire que la notion du vieux et du jeune, elle veut rien dire. Ça veut rien dire jeune et vieux. Oui, je vais vous dire même un principe très, très important, et ça, il faudra le retenir. Oui, c'est tout à fait normal de mourir le jour de sa mort. La plupart des gens meurent le jour de leur mort. Comprenez ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le jour où la mort physique, elle rencontre la mort potentielle, on meurt. Donc la mort, elle existe. C'est une échéance. Comprenez ou non? C'est comme un type, il doit payer le 30 sa dette. Il dit, j'espère qu'on n'est pas le 30 aujourd'hui. J'espère que dans 30 jours, on ne sera pas le 30. Mais le 30, il existe. Il est là-bas. C'est le temps qui va vers le 30. Mais le 30, il arrive. Donc ça veut rien dire, j'espère qu'il n'y aura pas de 30. C'est pas, c'est pareil. Quand quelqu'un dit, j'espère qu'il ne va pas mourir. Mais de toute façon, il mourra le jour de sa mort. Vous avez vu des gens qui meurent avant de mourir, vous? Et les gens qui meurent le lendemain? Ça veut rien dire. Donc, quand quelqu'un y comprend qu'il y a une prédestination, pourquoi? Pourquoi c'est normal? Parce que, étant donné qu'il y a une chaîne qui est créée entre les personnes, et que cette personne-là, elle s'inscrit dans un schéma qui correspond à celle-là, qui correspond à celle-là, qui correspond à celle-là. Donc, si tu grandis un élément, tu vas être obligé de rapetissir l'autre. Quand vous avez un puzzle, il y a 500 pièces. Chaque pièce, elle a sa place. Maintenant, si vous dites, pourquoi cette pièce, elle est petite, j'ai envie de la faire grande? Sache une chose, si vous voulez la faire grande, il faut que celle d'à côté soit plus petite. Ça veut dire que si tu veux rallonger la vie de celle-là, il faut que tu raccourcis la vie de l'autre. Impossible. En malchuta noged bechaverta. Une royauté, elle ne peut pas empiéter sur la deuxième. Donc une vie, elle ne peut pas empiéter sur l'autre. Donc c'est pas que cette personne-là, elle a vécu vieille ou elle a vécu jeune. Elle a vécu le temps qu'elle devait vivre. Et si Akadosh Baruch Hu lui a donné 20 ans, ça veut dire qu'il lui a donné une mission pour 20 ans, avec des moyens pour 20 ans, avec des possibilités pour 20 ans, avec de la volonté pour 20 ans, et il a fait ce qu'il avait à faire. Ah, il l'a pas fait. C'est comme les examens. Il y a des examens, on les fait en 2 heures. Il y a des examens, on les fait en 6 heures. Il y a des examens, on les fait en 5 minutes. Ça dépend de l'examen. La vie, c'est un grand examen. On te donne le cahier, le stylo, les professeurs, les cours, les livres, on te donne tout. Ah, maintenant, à toi. Ou tu fais les exercices, ou tu les fais pas. Il y a des gens, ils esquivent les exercices. Ils disent, non. Pourquoi je vais me casser la tête? Laisse couler la vie. Ça changera rien. C'est impossible. C'est fait pour travailler. Qui c'est qui peut dire qu'il a du temps? Il y a les gens qui se plaignent toute la vie que le temps il est trop court. C'est comme si quelqu'un arrivait à l'examen. D'accord? Donc l'examinateur il dit vous avez 4 heures pour faire l'examen. Alors il y a un type pendant 2 heures, il va voir l'examinateur, il dit je vous en prie, donnez-moi encore 2 heures. Donnez-moi encore 1 heure. Là, même 5 minutes, même 10 minutes, donnez-moi pendant 2 heures. Et bien l'examinateur il dit excusez-moi, je vous ai donné 4 heures, c'est 4 heures comme tout le monde. Et toi t'as perdu 2 heures. C'est pareil. Alors c'est pareil dans la vie. Les gens ils disent oh là là, moi j'aurais bien voulu être riche. Oh, si j'avais une jeunesse heureuse, si j'avais été grand, si j'avais été une femme, si j'avais été un homme, si on était toujours des enfants, si on était encore au Maroc, il n'y a pas. Les données, on te les calcule, on te les prépare, on te les donne. Ce qui est important, c'est ce que tu fais avec les données. C'est pas les données. Vous comprenez ou non? On fait une course. Je te donne une voiture, fais la course, petit, mais j'aime pas la voiture. Mais tu peux ne pas l'aimer, mais ça changera rien. Tu n'aimes pas ton nez, et néanmoins, c'est ton nez. Vous comprenez ou non? Ça sert à rien. Et les gens, ils passent la moitié de leur vie à se plaindre de leurs moyens, et l'autre moitié à les refuser. Et ils n'ont même pas commencé l'histoire. Ils n'ont même pas commencé l'examen, vous comprenez ou non? C'est comme le type, le prof, il dit, bon, alors, on va faire un problème de baignoire. Il dit, j'aime pas les baignoires. Ben, t'auras zéro. Il dit, oui, d'accord, mais en tout cas, moi, je dis ce que je pense. Tu sais ce qu'il va faire ce type là? Il sera plongeur. Il aura une grande baignoire devant lui et toute sa vie il pourra noyer sa douleur dans le savon. Ça ne sert à rien. Les données, ça sert à rien de discuter les données. J'aime pas mon corps, j'aime pas ma vie, j'aime pas mon pays, j'aime pas ma femme, c'est des données. T'aimes pas tes enfants? T'as raison, ils te ressemblent. Ouais, d'accord. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça ne rime à rien de remettre en cause les données, parce que les données, elles sont déterminées par rapport à une certaine mission. Or, on ne te demandera jamais plus que ce dont tu es capable. Donc pourquoi tu t'angoisses? Vous comprenez ou non? Si un type, on lui dit, il faut passer une falaise de 1000 mètres, j'ai 10 mètres de corde, ça c'est vicieux ça. Mais si quelqu'un lui a dit, je t'ai donné une falaise de 10 mètres et je t'ai donné 10 mètres de corde, pourquoi tu pleures? Comprenez ou non? Les gens ils disent, oui mais, si j'étais le gamin de Vilna? Ah bon? Et si c'était le pot de chambre de Baba Salé? Qu'est-ce que ça veut dire ça? On t'a pas demandé. On t'a demandé d'être toi-même. Si tu l'es déjà, c'est extraordinaire. Bravo déjà. Ouais. D'être quelqu'un d'autre, c'est inintéressant. Alors pourquoi toute ta vie tu passes à essayer de comprendre pourquoi tu n'es pas quelqu'un d'autre? Comprenez ou non? Tu t'identifies avec une vedette de cinéma. Tu t'identifies avec ton grand frère. Tu t'identifies avec ton père. Mais on t'a pas demandé ni d'être ton père, ni d'être ta mère, ni d'être ta sœur. On t'a demandé d'être toi-même. Donc on t'a donné des données. Les données, c'est pas la peine de les discuter. Ça, c'est Akhbourou qui détermine. Pourquoi? Parce qu'il veut pas que tu perdes ton temps. De la même manière que les parents, ils veulent pas que les enfants ils perdent leur temps à discuter et l'école et le livre et le stylo et la feuille. Ce qu'ils veulent, c'est qu'est-ce que tu produis avec. Eh bien, vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que je produis avec les éléments que Dieu m'a donnés? Ça s'appelle la Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim, c'est le relationnel que j'entretiens avec la matière que Dieu m'a donnée pour évoluer. Donc ça, c'est pas Dieu qui va le donner, parce que c'est ce qu'il attend de toi. Et toi, tu voudrais que Dieu te le donne. Et toi, tu es en train de te battre pour justifier le reste, alors que Dieu, de toute façon, le reste, il te l'aurait donné. Vous comprenez, les gens, ils disent, moi, je travaille, moi, j'ai de l'argent. Moi, j'ai une boutique. Moi, j'ai une maison. Mais cette boutique, ça fait 6000 ans qu'elle est programmée. Ce rideau, ça fait 5700 ans qu'il est programmé. Ça veut dire qu'il y a des molécules de coquillage qui se sont détériorées sur les falaises d'Étretat en 1293 pour qu'aujourd'hui, il arrive ce rideau. Et toi, tu crois que tu dis, moi, j'ai décoré, j'ai mis le rideau. Mais le décor, c'est pas toi, c'est Dieu. Le décor, la rue, le physique, les enfants, la femme, ton corps, ta parnassa, c'est Dieu. Qu'est-ce que tu as à faire toi? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu exprimes? En quoi tu existes grâce à ça? C'est des outils. Vous comprenez? Donc c'est complètement débile de discuter les outils, d'en vouloir aux outils, de vouloir d'autres outils, parce que je me crois, c'est très bien ce que tu veux. Ton professeur, il t'a mis au CE2. C'est que t'es niveau CE2. Tu dis pas, peut-être que je suis Einstein, il le sait pas, le professeur. Comprenez, il y a beaucoup d'élèves, on appelle ça des poètes incompris. Ouais. Ils disent, mais peut-être que je suis très fort et personne ne le sait. Oui ou non? C'est comme les tzadikim nistarim. Il y en a, ils sont tellement nistarim que même Hachem, il les connaît pas. Ça s'appelle des Rechaim. Vous comprenez ou non? Ici, c'est pareil. Si quelqu'un, il comprend ça. Qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a donné les moyens pour que nous on les utilise. Et c'est notre travail à nous de faire. Alors si c'est comme ça, vous allez comprendre une Gemara qui est abominable. Mais il fallait ce préliminaire pour comprendre la Gemara. La Gemara elle est dans Ta'anit Daf Kaf'e. C'est marqué comme ça. Rabbi Lezer ben Pedat, Dachika Lemilta. Rabbi Lezer ben Pedat, il était... Rachid dit, Vayadachouk Ve'anil, il était dans une situation très difficile, il était très pauvre, mais une pauvreté, il n'avait aucun mazal, aucune atzlaha. N'importe quel business qu'il faisait, ça ne marchait jamais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je saute un peu parce qu'il est tard. Un jour, il était fatigué, il s'est endormi, et les Khamim, ils ont été pour le visiter. Et dans son rêve, il pleurait et il rigolait. Alors quand il s'est réveillé, ses élèves ils lui ont dit, quitte à amouler, maïtama kabachita vechayita. Il dit pourquoi? Ils lui ont demandé pour quelle raison est-ce que tu as pleuré et après tu as rigolé dans ton rêve. Rabbi Eliezer ben Pedat. Regardez ce qu'il a dit. Amar Lehu leur a dit, Davayati va'imi akadosh baruchu. Akadosh il était assis à côté de moi. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu visite les malades. Il faudrait prendre exemple sur lui. Vermrele, ils lui ont dit, Admata Israël, Be'aya Alma. Alors, Rabbi Eliezer ben Pedat, il a dit à Hachem, il a dit, jusqu'à quand je vais souffrir dans ce monde? Ça y est, ras-le-bol. Ouais. Un dépôt de bilan. Et je plante ma voiture. Ma femme me quitte. Mes gosses m'insultent. Ça y est, ça suffit. Fatigué. Et là, ça suffit. Regardez ce qu'il a répondu. Hachem lui a dit, Vermrele, Hachem m'a dit, Eliezer béni, Eliezer mon fils, ni chalecha, de Efrele Alma Miresha, Efchar de Mithyalda, Beshaata de Maisonné. Il a dit, Eliezer mon fils, est-ce que tu veux, regardez bien, que je renverse le monde, Ça veut dire, je recommence le monde entier. Et peut-être, tu vas naître dans un mazal de Parnassa. Regardez bien. Amrele el kame koule koule ay vefchar. Alors, ils ont dit devant lui, Aïm gamle achar kol kzot, adain yeshafek shema lo avlan. Bon, c'est parce que la Gemara là-bas elle a développé pour savoir si c'est dans le, ça vient du Mazal ou ça vient du Srout. Mais nous on va regarder ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? Elle a dit que Rabbi Eliezer il a dit à Kjourou, bon allez ça y est, j'ai beaucoup souffert, envoie-moi un peu de Hachirout. Tu as de l'argent Kjourou, il n'a pas un problème d'argent, vous comprenez? Pour lui 2-0, 6-0, 1000-0, c'est rien pour lui, d'accord? Regarde une équipe de foot, il y a 11-0 et ça dérange personne. Donc, je sais pas combien il y a de footballeurs dans les équipes chez vous. Donc tu vois que il dit que pourquoi que je beaucoup, il m'a envoyé cette douleur de la pauvreté. On voit un peu de richesse. Il jette tellement d'argent de moi un petit peu. Je beaucoup, il a dit, est-ce que toi tu voudrais que je change? Je retourne le monde, je refais le monde. Et peut-être tu vas tomber dans un mazal de riche. Alors il demande le Raphaël Shmulovitz. Il dit, je comprends pas. Est-ce que c'est tellement difficile pour Akadosh Baruch Hu? Il a pas une caisse noire pour dire, bon allez, tiens, donne-lui 2 ou 3 millions de dollars, si tu veux. Il a bien étudié, il connaît toute la Torah entière, c'est un grand sadique, il a beaucoup souffert. Donne-lui 2 ou 3 millions de dollars, ou là un lingot d'or, ou là quelque chose. Et c'est tout. Non, il peut pas. Non, Dieu, il peut pas. Oh, il est dur en affaire. Il demande une autre question. Il dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire que Akjbonkho, il a dit, peut-être que je vais refaire le monde entier, et peut-être tu vas tomber dans un mazal. Mais quel rapport il a ramené les herbes Ben Pedat avec le monde entier? Ça veut dire que, Akadash Baruch Hu, depuis qu'il a créé le monde, depuis 5700 et quelques années, il a calculé qu'à telle époque, on va avoir besoin d'un grand Ani, et il n'a pas décidé qui. Donc, dans le monde physique, il a calculé qu'à cette époque-là, il y a une grande pauvreté, qui va tomber sur un certain corps. Mais dans ce corps-là, il n'a pas déterminé quelle personne va être et quelle âme va être. Ensuite, pendant les 5000 ans ou les 2000 ans, il y a des mitzvot qui se font, il y a des verot qui se font, il y a des âmes qui passent par différents corps. Ces différents corps, ils nécessitent différents éléments psychiques, donc différentes personnes. Et par le fait des mitzvot et des verot, il est arrivé qu'à cette époque-là, on avait besoin d'un grand Ani, il y avait une Neshama qui avait besoin de Aniout et qui est tombée sur Rabbi Eliezer Ben Pedat. Yafemt. Vous avez compris pourquoi je vous ai expliqué tout à l'heure? Alors maintenant, je vous crois, il a dit, écoute, étant donné qu'il y a une interaction depuis 2444 ans, pour arriver à cette époque-là où il y aura besoin d'une grande aniout chez une personne, sur une personne, pour faire un certain tikkun au niveau d'une certaine neshama. Donc, si je dois changer pour toi, je dois changer pour tout le système. Donc, faut que je recommence tout depuis le système. Depuis le début. Donc, il a dit, est-ce que tu voudrais que je refasse tous les shisha, sidri mara, tout, je change tout le monde entier. Tous les sidri mara, sibérichi, je les change. Pour toi. Et c'est pas sûr que tu vas tomber dans un mazal de richesse. Est-ce que vous me suivez là? Vous comprenez ou non? C'est comme, imagine, j'ai une boîte comme ça, avec des casiers dedans. J'ai des casiers, des grands, des petits, des moyens. Je prends des boules, je les jette. Alors la boule, elle est tombée sur le 82. Alors je vais jeter en l'air. Toutes les boules vont retomber dedans. Mais qui t'a dit que ta boule, elle va tomber dans le 83? Peut-être elle va tomber dans le 12. C'est même pas sûr que tu vas avoir un mazal de la chiroute. Alors, tu veux qu'on change tout pour ça? C'est pour ça qu'il a rigolé. Ça veut dire quoi? Il a pleuré. Parce que c'est quoi le pleur? Le pleur, c'est la déception. La déception, c'est la désagréable impression de la différence entre le rêve et la réalité. La déception, c'est la désagréable impression qui naît de la différence entre le rêve et la réalité. Quand vous croyez à quelque chose et que vous trouvez autre chose, vous pleurez. Parce que vous êtes déçu. D'accord? Donc, si on est déçu, c'est parce qu'on comprend pas. Si on comprend pas, c'est parce qu'on n'est pas adapté. Donc, pourquoi il a pleuré? Parce qu'il n'avait pas compris. Pourquoi il a rigolé? Parce qu'il a compris. Il a compris. Quand je vous l'ai expliqué, il a compris. Alors, quand il a compris, il a rigolé. Vous comprenez ou non? Pourquoi les gens, ils pleurent tout le temps? Parce qu'ils sont inadaptés. Pourquoi les tzadikim, ils rient toujours? Parce qu'ils savent que Gamzul et Tova, il rigole. Toi, tu pleures, tu dis. Mais lui, il sait pourquoi. Il rigole. Lui, il voit la fin, toi, tu vois le début. Et comme il sait que Akol et Tova, donc il sait que la finalité, elle sera bonne. il rigole. C'est par exemple, toi, tu dis, ouais, mon professeur, il m'a donné encore 100 exercices de maths, 84 exercices d'anglais, 55 exercices de physique. Oh, j'en ai marre. Et ton père, il se marre, il dit, il se marre. Après, au bout de 10 ans, tu viens chez lui, tu dis, papa, ça y est, j'ai été engagé par Electropetrolo Canada, et je gagne $180,000 par mois. Alors ton père, il dit, tu te rappelles pourquoi je rigolais quand tu faisais des exercices? Tu te rappelles pourquoi je me marrais? Je me marre à cause de ça, parce que je savais qu'à la fin, tu allais toucher $184,000. Alors que si, quand tu avais pleuré, je t'avais dit, allez, ne fais pas les exercices, laisse tomber les exos, il exagère trop ce professeur, fais-en 1 sur 100. J'aurais pleuré, parce que je t'aurais vu à la planche du McDonald's. Donc quand tu comprends la finalité, t'es toujours heureux. Quand tu comprends pas la finalité, t'es toujours malheureux. Imagine-toi, t'es un paysan, de Vancouver, ouais. Il dit, mon fils, là, il a mal au ventre. Alors le médecin, il dit, approchez, il met la main, oh là 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 là, vite, hop, au bloc. Alors comme il sait pas, c'est la première fois qu'il vient en ville, il a amené une hache avec lui. C'est vraiment un paysan, hein. Il voit qu'on prend son fils, on le met à plat, tac, on l'endort, tac, il se met à 8 dessus, il met des casques et tout, et hop, il prend un truc, il ouvre le ventre comme ça. Hein? Il voit ça, mon fils, mon amour, ma chérie. Il prend la hache, il les décapite les 8. Sauvage. Bon, après qu'on a réussi à le calmer, on lui dit, mais votre fils, il avait une appendicite, monsieur. On est obligé de le soigner. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On recoule les têtes maintenant. Ça veut dire quoi? Quand tu regardes l'histoire à moitié, tu pleures. Mais Hachem, il voit l'histoire en totalité, il rigole. Vous comprenez ou non? C'est pareil, tu vois Shane Tzadik. Il rigole. Tu dis, oh, je suis mal en ce moment. Il sait à quoi t'as échappé. Vous comprenez ou non? Toi, tu dis, j'ai eu un accident de voiture. Une voiture à $100,000, j'ai perdu une voiture. Akshboku, il dit. Celui-là, Akshboku, il avait prévu de lui faire un cancer. Et comme il a fait une grande sedaka, il a dit, bon, je lui enlève que la voiture. Et il rigole maintenant. Ouais. Il se marre. Il dit, Baruch Hashem, Hashem, il t'a enlevé la voiture, Baruch Hashem. Quand il dit, j'ai raté l'avion. Bon, il s'est écrasé, mais je l'ai raté. J'ai quand même raté. C'est un rendez-vous important. Ah ouais. Un rendez-vous important. Ouais. T'as raté un avion qui s'est écrasé. Ici, c'est pareil. Quand on regarde l'histoire entière, oui, elle est toujours belle. Quand on regarde l'histoire au milieu, elle est toujours moche. C'est comme ça. Alors, si c'est comme ça, hein, regardez ce qui est écrit dans le Ramchal, dans le Dat Dvunot, page Kouf Petet, pour ceux qui veulent faire ce soir en rentrant. Il est comme ça. Ve'omnam, klal tikut n'abriya, chilek oto ha'adon baruchu ben kol ha'neshamot asher asa le'ovdo. Le tikkun, la réparation de toute la création, Akadosh Baruch Hu, il l'a distribué entre les âmes qu'il a créées pour le servir. Parce que rappelez-vous, encore une fois, nous on a un regard par rapport à notre projet personnel. Je dis, mais moi, comment je vais m'en sortir? Mais toi, tu es une chaîne. Depuis Abraham Avinu jusqu'au Mashiach, on est des maillons dans une chaîne. Ça, c'est la chaîne humaine. Akadosh Baruch Hu, il a un autre regard. C'est que lui, il a créé le monde qui va servir de système de culture, d'évolution pour les Neshamot. Qui va distribuer dans des petits tubes qui vont évoluer et qui vont devenir des embryons. Alors, des embryons de Neshama, il les met dans chaque corps. Alors, quand Hachmoukou, il a créé les âmes pour le servir, ces âmes-là, elles doivent passer par le corps pour faire un certain travail. Mais non. Les Fimashiyada, Iyot, Agun, l'école et Chadmehen. Selon ce qu'il sait, qui est bon et qui est nécessaire pour chacune des âmes, les Fiyainyan chez Barahoto, selon la raison pour laquelle il a créé cette âme, chez Udavar Ne'elam Me'od Me'od, ça c'est quelque chose de très très caché, ça veut dire le pourquoi d'Hachem. Le pourquoi de l'homme, c'est pas évident. Le comment de l'homme, on peut se demander. Mais le pourquoi d'Hachem, pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi? Parce que les calculs ils sont trop compliqués. Regardez, par exemple, ce type là peut-être il est venu en Aniout, dans cette vie là, parce qu'avant il était dans une vie de Hachirout. Et il n'a pas été sensible au Rani. Et pour qu'il ressente, qu'est-ce qu'il a ressenti le Rani quand il est passé devant lui en lui disant « Tu veux de l'argent ?» Ek. Alors on l'a envoyé dans un Gilgoul de Raniout. Vous comprenez ça? Peut-être lui, il a tué quelqu'un. Alors il a créé une douleur chez l'orphelin. Alors on l'a mis dans une vie, l'orphelin. Ça veut dire, comment tu vas faire le calcul, toi? Par quoi elle est passée cette âme pour ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui? Il dit ça, c'est Dava, Ne'elam, Me'od, Me'od. C'est quelque chose de très très caché. Il n'y a que Hachem qui maîtrise ça. Velo sag mishum navi ve'orchose. Il n'y a aucun prophète et aucun voyant qui peut comprendre ça. Regardez. Qui kolze nichlal beta'ame akzerot chez Zacharnou, chez M. Ne'elami, Minivraim. Parce que tout ça, c'est inclus à l'intérieur des raisons, des décrets qui sont cachés de toutes les créatures. Vélo, regardez bien, il va de où là, nous, et ça ne sera pas connu de nous, et là, à Toldot, nous n'aurons que les conséquences. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il a imprimé, il a donné une âme, qui elle, est unique. On ne connaît pas le système de fonctionnement de l'âme elle-même. Mais on voit les conséquences. Par exemple, c'est comme tu vois une lumière. Tu vois une lumière là. Et bien cette lumière, tu sais qu'elle vient du néon. Mais tu ne sais pas comment la lumière du néon, elle vient là. Ben, tu dis, ben, c'est normal, il y a le néon, il fait de la lumière. Mais comment? Il la gêne, il la souffle. J'en sais rien. Et comment l'électricité, elle devient de la lumière? Pourquoi le gaz, il est blanc? Peut-être le gaz, il aurait pu faire de la mayonnaise. Oui, si c'est pareil. Nous, on réfléchit sur le comment des choses, parce qu'au niveau physique, on gère seulement la conséquence. Mais la cause première, on ne la connaît pas. De la même manière que l'âme, on ne sait pas comment elle fonctionne, mais on voit les expressions de l'âme au niveau du vécu, les expressions de l'âme au niveau du physique, les expressions de l'âme au niveau du psychique. Mais on ne connaît pas l'origine de l'âme. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il appelle. Que, et la toldot, seulement les conséquences, nous, on les voit. Venimsa, sheyesh Adam, sheyagialo, mitzat shoresh inyano, liot mushpar beribuy ashpa. Donc c'est possible que quelqu'un, selon la racine de son sujet, c'est-à-dire la raison pour laquelle il est venu sur la terre, on lui donne ribuy ashpa, ça veut dire une grande quantité d'influence. Alors on va lui donner beaucoup. Ça s'appelle la siyata d'Ishmaïa. Il y a quelqu'un, on va lui donner 20 millions de dollars, et une grande force, et beaucoup d'amis, et une grande écoute, et un charisme. Et de l'autre côté, Veyesh Adam, Sheyagi Alo Mitzad Shoresh Inyano, qui va lui arriver selon l'essence de sa racine, d'accord, de sa racine, par rapport au but qu'il a à atteindre. Encore une fois, s'il est venu pour faire un travail de CP, on va le mettre dans une classe de CP, avec des élèves de CP, oui, avec des cahiers de CP et des exercices de CP, c'est clair. Liot Mushpa, Bemiut Ashpa, il va être influencé par un peu moins. Amitztarech, les Ashlamat Abriya, qui sont nécessaires pour le complément de toute la création. Ve'enkan mitzad ma'aseh bnei adam ha'em, et la mitzad ma'aseh magia la'em. Et ça ne dépend pas de l'acte de l'homme. Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il m'a calculé les événements, le temps, les moyens physiques et les moyens psychiques, ça ne vient pas de moi. J'ai rien à voir là-dedans, moi. Ça, c'est le mazal. Comprenez ça? Maintenant, vous avez compris pourquoi c'est prédéterminé obligatoirement. Parce que c'est interactif avec les autres mazalotes des autres personnes qui eux-mêmes, ils sont interactifs avec les miens. Tout ça, ça va ensemble. Alors. Et la mitzad, ma shemagi alaem, les filles, ma shechilek a adon baruchu tikkun abriya ben an ivraim, selon que comment est-ce que Akadosh Baruchu, il a distribué la réparation, le tikkun de ce monde, il l'a distribué selon les créatures. C'est comme si tu dis une usine, il y a 1000 ouvriers. Toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Maintenant toi qui fais ça, tu as les outils pour faire ça, tu as le temps pour faire ça, tu as la mission pour faire ça. Toi qui fais ça, tu as les outils, Maintenant si un type dit moi j'ai envie de faire le boulot de l'autre. Je t'ai rien demandé moi. Chacun il a son travail, chacun il a ses outils, chacun il a son temps, chacun il a sa mission. Pas la peine de perdre ton temps à essayer de changer d'outil, changer de système, changer de moyen, c'est inintéressant. À l'intérieur de la mission. Mais en dehors, ça sert à rien. Parce que sinon, tu vas vivre une vie qui n'est pas la tienne. Et la preuve, c'est que le même type, toute sa vie, s'est battu. Et à 45 ans, il dit, mais, en fin de compte, ce que je fais, je l'aime pas. Ça me colle pas. Ça va pas avec moi. Je l'ai fait pour prouver à mes parents que j'étais pas un nul. Ou pour casser mes grands frères qui me disaient toujours que j'étais un pauvre type. Mais en fin de compte, moi-même, ça me ressemble pas, ça. Il y a des gens, ils font médecine, d'accord? À 45 ans. Après 12 ans d'études et 20 ans de travail, ils disent, mais j'ai aucun rapport avec ça, moi. Et hop, il se met dans l'informatique. Parce qu'il y a un moment ou un autre, le type, il voit qu'est-ce qui va avec lui. Donc ça veut dire que jusqu'ici, il a joué un rôle. Or, étant donné que le but, c'est d'exister, donc que ton être intérieur se réalise à l'extérieur. Mais la grande épreuve, c'est que le monde extérieur, il veut t'imposer l'inexistence. Parce que le monde extérieur t'impose des modèles publics. Et toi, tu dois développer un être personnel. Donc l'être intérieur, c'est le contraire de l'influence publique. Donc il faut se battre contre le public pour être soi-même. Ça s'appelle la mondialisation. Nike, Jordan, Breitling, Cartier. Hein? C'est pareil. Vous comprenez ou non? C'est pareil. À partir du moment où tu comprends que on t'a demandé d'être toi-même et que le monde, pour des priorités économiques, te demande d'être personne. Parce que c'est plus facile de gérer un grand troupeau de personnes, que de gérer un grand troupeau de personnes. Oui ou non? Voilà. Alors, si c'est comme ça, maintenant on a compris comment ça marche. Kadosh Baruch Hu, il a fait un puzzle. Un grand puzzle. Alors vous remarquez qu'une chose, c'est qu'un puzzle, quand vous le faites, il est extraordinaire. Mais quand vous le faites pas, il n'y a pas plus moche qu'un puzzle. Il y a un gros tas de pièces comme ça, c'est complètement moche. Mais quand tu les mets bien à leur place, tu as un paysage, un poster. Ah, quelle beauté, quelle finesse. C'est pareil. Nous, pourquoi on dit, la vie elle est difficile, et c'est pas évident, et il y a eu la guerre, oui, et il y a eu le Kosovo, et il y a les yaourts froids, et il y a le coca chaud, la vie est dure. On se plaint tout le temps, pourquoi? Parce que nous, on regarde le puzzle par petits morceaux. Si on regarde notre petit bout à nous, ça s'appelle ego. On regarde notre petit bout de puzzle en disant, oh, il est pas terrible mon petit bout. Donc on comprend pas qu'il fait partie d'un projet global qui s'appelle la volonté d'Hachem. Soit on voit le projet global, mais quand on voit le projet global, on désespère. On dit, quel est l'avenir? Regarde cette civilisation. Regarde à quoi on en est arrivé. Regarde la couche d'ozone. Regarde la couche de ta sœur. Regarde. Ouais. Alors on désespère. On désespère. Ou alors, on est chacham. Ezehu chacham aroe et anolad. Et on voit tout le puzzle étalé. Parce que c'est marqué que quand Mashiach il va venir, Akadosh Baruch Hu, il va nous expliquer tout ce qui s'est passé depuis la création, depuis la faute, depuis l'inquisition, depuis les camps de la mort. Il va tout nous expliquer. Et on n'aura rien à dire. On va tout comprendre. Ah, parce que quand tu regardes le monde des corps, tu dis mais pourquoi? C'est vrai, pourquoi? Dans le monde des corps, t'as raison, on comprend pas. Parce qu'on regarde la vie par un trou de la serrure, donc on n'a pas tous les éléments. Mais quand tu regardes dans le monde des âmes, Akadosh Baruch Hu, il va dire, asseyez-vous à côté de moi, les enfants, je vais vous expliquer. Et il va nous montrer le plan, il va nous dire, tu vois cette âme-là, regarde ce qu'elle avait fait. Et celle-là, regarde ce qu'elle avait fait. Et celle-là. Mais non, quand je lui ai fait ça, c'est pas pour rien, c'est parce que regarde ce que ça a apporté. Regarde ce que ça a amené. Regarde ce que ça a fait. Et là, Bisman Mashiach, il y aura le shalom, parce que tout le monde va comprendre tout ce qui s'est passé depuis le départ. Donc quand le puzzle, il est étalé, il est construit, il n'y a pas plus beau. Mais quand le puzzle, il n'est pas construit, où les pièces sont séparées, il n'y a pas plus moche. Alors, il faut arriver à comprendre que cette notion-là, de l'assemblage, oui, de tous ces éléments, c'est notre travail à nous. Ça veut dire que, je vais vous dire une banalité qui est très profonde. Si chacun d'entre nous jouait exactement son rôle et rien d'autre, le monde, il serait extraordinaire. Vous voulez une preuve? C'est quoi la Hanava? C'est quoi la Hanava? La modestie. C'est ce qu'est la Hanava. Les gens, ils croient la Hanava, c'est la Hanava, la Hanava, la chifloute. C'est pas ça la Hanava. La Hanava, il dit le Rav Chaim de Vologine, la Hanava, la modestie, la makir mekomo, celui qui connaît sa place. Chacun connaît sa place. La Gaava, c'est quand quelqu'un, il est plus grand que sa place, ou plus petit que sa place. Si un homme, sa place, c'est d'être grand, la Hanava, c'est d'être grand. Sa place, c'est d'être petit. Sa Hanava, c'est d'être petit. Maintenant, quelqu'un qui est grand, il se fait petit, c'est de la Gaava. Quelqu'un qui est petit, il se fait grand, c'est de la Gaava. C'est incroyable, ça. Alors moi, je vous dis, pourquoi la Torah, elle insiste tellement sur la Hanava? Parce que si chacun, pas si chacun, il est à Hanava. Allez, et toi, après toi. C'est un autre problème, ça. C'est un problème de... Ouais. Mais si chacun est à Hanava, ça veut dire chacun était à sa place. Chacun était à sa place. Oui ou non? Celui qui a quelque chose à dire, il le dit. Celui qui a rien à dire, il se la ferme. Celui qui a quelque chose à faire, il le fait. Celui qui a rien à faire, qu'il ne le fasse pas. Celui qui n'est pas juge, qu'il arrête de juger. Mais le monde, il serait, c'est Tikkun HaOlam. Si chaque pièce du puzzle, elle était belle et à sa place, mais le monde, c'est Mashiach. Or, chaque pièce du puzzle, elle veut pas, elle s'aime pas en tant que pièce. Elle dit, moi, j'aime pas ma place. Moi, j'aurais préféré être dans le visage, là-bas, de la belle jeune fille, là, dans le puzzle, plutôt que là, d'être dans la croupe du cheval.
Pourquoi?
Pourquoi moi? Tu fais partie du puzzle! Comprenez ou non? Les gens, ils se plaignent. Ils disent, oui, moi, dans ce Gilgoul, Hachem, il m'a fait petit, bête et chauve. Mais dans le prochain, tu seras crapaud baveux. Dis merci! Et tu vas dire, pourquoi crapaud baveux? Parce que qu'est-ce que t'as fait tout ce Gilgoul-là? T'as bavé. Ouais, tu nous as saoulé de baver, de te plaindre tout le temps, toujours faire la tête, et ça va pas, et ça marche pas, et ça marche pas, ça va pas. On va te mettre au bord d'une rivière, et tu te poseras des questions, et tu auras des doutes. Comme toute ta vie, tu as eu des doutes. Vous savez que le crapaud, c'est le seul animal qui exprime son doute. Vous savez pas? Que c'est le chant du crapaud? Perhaps. Ouais. C'est connu. Le chant du crapaud, écoutez bien, vous verrez, perhaps. Les gens qui ont des doutes dans leur vie, ils viennent en Gilgoul de crapaud. Hein? Ça, c'est les grenouilles. Mais les crapauds, c'est perhaps. Perhaps. Oui? Enfin, c'est une affirmation qui n'engage que moi. Vous n'en faites pas. Pour ceux qui seront en mouche aussi, ça peut s'expliquer. Alors. Mais ça, c'est déjà une autre explication. Alors. Si c'est comme ça, hein. Voilà. Si c'est comme ça, donc il n'y a plus de contradiction, comme il n'y a plus d'injustice. Vous savez, quand les gens, ils font ce qu'on appelle le syndrome de Calimero, je ne sais pas si c'est développé ici, c'est trop injuste. Oui. Calimero. Ah, il n'y a pas Calimero ici? Ah, il y a Calimero. Ah, je vois que... Oui. Donc, il y a des gens, toute leur vie, ouais, c'est pas juste. J'ai pas... D'ailleurs, les gens disent, j'ai pas eu de mazal. Mais c'est impossible, tout le monde a un mazal. Ah, maintenant que tu n'as pas le mazal de l'autre, évidemment, tu n'es pas l'autre. Donc, il ne faut jamais se plaindre de ne pas être quelqu'un d'autre. La vraie question, c'est pourquoi tu n'es pas toi-même. Donc, maintenant, l'injustice, c'est de ne pas comprendre le lien entre les moyens qu'on te donne et la mission qu'on te donne. Des fois, la mission, elle est éclatante. D'accord? Mais on refuse les moyens. Des fois, le contraire. Des fois, les moyens, ils sont évidents, mais on refuse la mission. Il faut que ça colle entre la mission et les moyens. Alors, ce qui est marqué ici, tous les éléments qui sont nécessaires pour que tu puisses accomplir ta mission, on te les a donnés. Pour ça, c'est marqué Amishpat le'Elokim. D'accord? Le jugement, c'est Hachem qui va le faire. C'est lui. Parce que qui c'est qui sait faire l'équilibre entre les moyens qu'on donne, la mission qu'on demande et les résultats obtenus? Qui c'est qui peut juger? Vous comprenez ou non? Peut-être ce type-là, on ne lui a pas demandé grand-chose. Et il l'a fait. Celui-là, on lui a demandé beaucoup. Mais il a fait la moitié. Qui c'est qui est en faute? Celui qui a fait la moitié de ce qu'on lui a demandé, ou celui qui a fait un petit peu, mais c'est tout ce qu'on lui a demandé? Celui qui a tout fait, il est mieux. Qui ne lui sait rien du tout. Ça ne veut rien dire. Parce que celui que peut-être que toute sa vie on lui a demandé une chose, rien que répond au Kaddish, c'est tout. Répond au Kaddish. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Répond au Kaddish, c'est tout. Et il l'a fait. Tu dis, mais c'est nul. Répond au Kaddish. L'autre, le gars, on devine là, il a appris toute la Torah entière. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu au Kaddish. Oui, mais lui, on l'a donné à Yetzerara de ne pas répondre au Kaddish. Et il a répondu au Kaddish. L'autre, on lui a donné à Yetzerara de ne pas étudier la Torah. Et il a étudié la Torah. Mais celui-là, on lui a donné à Yetzerara de ne pas manger taref, de manger taref. Et il a mangé taref. Vous comprenez ou non? Chacun, en fonction de sa mission, il a Yetzerara pour le mettre à l'épreuve. Et des épreuves pour le faire grandir. Et des moyens pour y réussir. Donc tout est adapté. Donc c'est la justice totale. Ah, Mishpat l'Elohim. Nous, on peut pas juger. Parce que nous, on juge avec notre regard à nous. Mais nous, on regarde le monde par la petite fenêtre. Mais derrière, elle est grande, la fenêtre. Alors, comment tu peux savoir, toi, te dire, ouais, lui, c'est pas normal. Lui, c'est un rachat. Lui, c'est un sadique. Lui, il fait des efforts. Lui, il est bien. Lui, il est nul. Mais qu'est-ce que c'est, toi? Alors, si c'est comme ça, hein, on va revenir un petit peu aux éléments qu'on a donnés tout à l'heure. On a dit, on a vu la notion du goral, elle existe aussi à l'intérieur de la Torah, par exemple, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il a fallu que, il a demandé que quand les Bnei Israël sont rentrés en terre d'Israël, il a fallu qu'on partage la terre. Alors, on a fait un tirage au sort. C'est quoi ce tirage au sort, là? C'est que, c'est un truc qui est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Vous voyez, chaque terre, elle a sa caractéristique. Elle est différente. Par exemple, vous faites pousser une chose ici, elle ne pousse pas là-bas. Comme l'eau. L'eau. À chaque terre, à chaque endroit, elle n'est pas pareille. Donc cette eau-là, elle est bonne pour les reins, celle-là, elle est bonne pour le cœur, celle-là, elle est bonne pour les yeux. Chaque eau, elle est différente selon l'endroit. Or, chaque terre, elle est différente selon l'endroit. Mais de la même manière qu'il y a un lien de conformité entre la plante et la terre, et qu'il y a des plantes qui ne poussent pas à cet endroit-là et qui poussent à d'autres endroits, parce que la nature de la terre, elle est différente, de la même manière, il y a un lien de conformité entre l'homme et la terre. D'accord ? Donc, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'on allait faire un goral pour savoir chacun où est-ce qu'il allait se développer, c'est parce qu'il fallait déterminer que par rapport à cette neshama, de cette personne, dans cette famille, dans cette tribu, il fallait tel endroit sur la terre. Donc ça, il faut faire un goral. C'est pas au hasard. On peut pas dire aux gens, allez, mettez-vous n'importe où. C'est pareil. Non, non, non. Parce que c'est très précis. Et par rapport à cette précision, par rapport au travail qu'ils avaient à faire, c'est précis. De la même manière que si un jour il a dit, voilà, le corban, il faut le donner à tel endroit. Et la ketoret, il faut la mettre à tel endroit. Tu dis, viens, on fait l'inverse. Tu dis, mais non, c'est évident. Si Hachem, il a dit qu'il fallait le mettre là, c'est parce que c'est nécessaire. Donc, si Hachem, il a pensé que cette famille-là, cette tribu-là, il fallait la mettre à tel endroit en Eretz Israël, ça veut dire qu'à cet endroit-là, elle va optimiser au maximum la mission qu'on lui a donnée sur cette terre. Donc, pour ça, on est obligé de faire un goral. De la même manière, les Seirim, vous voyez, on prend deux boucs, le jour de Yom Kippour. Et avec un, on va l'envoyer à la Azazel, du haut de la falaise, on le jette, il va s'éclater en bas. Et l'autre, on va faire le Korban à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, vous savez que ces deux boucles-là, on devait les prendre identiques, ouais, jumeaux, sans défaut, les deux cachères, les deux impeccables. Alors, on se demande, mais pourquoi il y en a un qui va aller vers Hachem et pourquoi il y en a un qui va aller là, à Azazel? Les deux, ils sont bien. Si à la Torah, elle avait dit, vous allez prendre un beau, un sans défaut, un fort pour Hachem, et vous allez prendre un chaloab total pour Azazel. Non, il faut prendre deux impeccables. Deux impeccables. Regardez ce qu'il dit le Ramban. En echad chashuv yoter min hasheni. Il n'y en a pas un qui est plus important que le deuxième. Regardez bien. Ki gam et haseir la azazel makrivim l'Hashem. Parce que même celui qu'on met pour la azazel, en vérité, on le dédie à Hashem. On le donne à Hashem. Ki kart siva Hashem chez Izriku Hushan. Parce que ainsi, il a ordonné à Hashem qu'on le jette à cet endroit-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire?
Je contrôle tout.
Pardon?
Je contrôle tout.
Ça, c'est pas seulement pour ça. C'est que nous, on croit qu'il y a le bien et il y a le mal. Mais ça, c'est lié à notre regard à nous d'hommes. Parce que nous, on voit les choses par la face externe des choses. Mais Akadosh Baruch Hu, dans son plan, quand il a nécessité et du bien et du mal, ça veut dire que le bien est nécessaire, mais que le mal, il est nécessaire. Maintenant, c'est vrai, Chas v'Shalom, que nous, on n'a pas le droit de le dire. Ah ben, le mal, il est nécessaire, à Avotai. Il faut des voleurs. Alors, il faut des tueurs. Alors, je me suis sacrifié. Nous, on n'a pas le droit de dire ça. Mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, dans son projet, étant donné que le monde, la Torah commence par un bête. Vous savez ça? Attention, pas l'étude de la Torah qui commence par un imbécile. Ouais. La Torah commence par un bête. Pourquoi un bête? Parce que bête, c'est deux. Et deux, c'est quoi? C'est que ce monde-là, il est basé sur la dualité. Or, comme la Torah, elle a été créée avant le monde, et que le monde, il a été créé à partir de la Torah, parce que Isaac el Boraita ou Bara Alma, donc automatiquement, ce monde-là, il est basé sur la dualité. Alors, dans ce monde-là, il y a le haut et le bas, il y a le chaud et le froid, il y a le noir et le blanc, il y a l'homme et la femme. La dualité. Et la contradiction dans la dualité, c'est ce qui crée le mouvement dans le monde. Ça, c'est une loi physique que vous avez certainement appris. Hein? Action-réaction, d'accord. Ne m'énerve pas. C'est quoi? C'est une loi physique. Non, je me permets parce qu'on se connaît depuis longtemps. Ne croyez pas, ne le prenez pas mal. Je pourrais être beaucoup plus méchant. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un y comprend qu'en vérité, ça c'est une loi physique. Le mouvement est créé par la contradiction de deux forces opposées. Vous avez un poids qui fait 5 kilos. Et vous faites une pression, ouais, un mouvement de 8 kilos. Le fait qu'il y ait deux forces opposées, le poids de 5 et la pression de 8, ça crée le mouvement. Mais si vous faites un poids de 5 et une pression de 5, immobile. Donc le mouvement est créé par la contradiction de deux forces opposées. C'est une loi physique. De la même manière, dans le monde, il y a le bien et le mal. Le mouvement du monde est créé par la contradiction du bien et du mal. C'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu, il a dit « Ve'iné tov me'od » dans la création du monde, à la fin de la création, Akadosh Baruch Hu, il a dit « Ve'iné tov me'od ». On sait que tov, ça veut dire « shalem ». C'est pour ça qu'on dit « mazal tov ». Tov, c'est « shalem ». Les deux morceaux, elles se sont rencontrées. « Mazal tov », d'accord ?« Ve'iné tov me'od », le Midrash, il dit « C'est quoi tov me'od ?» C'est parce que ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, il a créé le Yetzer Hara et le Malach HaMavet. Tu dis, oh bah dis donc, Tov Meod. Tu comprends ou non? Tu comprends ton fils, il dit, papa, j'ai fait une avéra de folie. Il dit, Tov Meod. Naïm, Naïm. Ezen Ahmad. Ouais. Ça va pas, non? Alors, Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, il a créé le Malach HaMavet et l'ange de la mort. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, Tov Meod. Pourquoi? Parce qu'avant qu'Akadosh Baruch Hu crée le Yetzer Hara, le monde, il était passif. Le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est le moteur du monde. Parce que le Yetzer Hara, c'est le désir. C'est l'épreuve. Donc la lutte contre l'épreuve, c'est l'évolution. Donc sans Yetzer Hara, pas d'épreuve, pas d'évolution. Donc il y a le mal nécessaire et le bien nécessaire. La contradiction des deux. C'est ce qu'il dit le Ramban. Le Ramban, il dit, il y a Seir Lachem et Seir Lazazel. Il y a besoin de Seir Lazazel, Béchif. Oui ou non? De la même manière, dans la vie, il y a des tzadikim et des rechaim. Oui? Ah, ça veut dire quoi? Alors tu dis, mais alors, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait un monde qu'avec des tzadikim? Parce que ça, c'est le principe de l'épreuve. Le principe de l'épreuve, c'est que celui qui a une possibilité d'être racha, il a le mérite d'être tzadik. Mais celui qui n'a pas la possibilité d'être racha, il n'a pas le mérite d'être tzadik. Prends un enfant. Regarde un enfant. Tu veux qu'il s'épanouisse. Pour qu'il s'épanouisse, il faut le confronter avec des difficultés. Maintenant, dans une difficulté, où il va réussir ou il va rater. Maintenant, si tu lui enlèves toutes les épreuves, il devient un pauvre type. S'il n'a aucune chance de s'en sortir, il devient un cadavre. Donc, si tu veux qu'il devienne un homme, il faut qu'il ait devant lui la possibilité de faire mieux ou de faire pire. Donc, l'épreuve, c'est l'école de la vie. Et l'apprentissage de la maturité, c'est la confrontation avec la vie, qui s'appelle l'expérience et qu'on appelle la maturité. Donc, pour qu'un être devienne mature, il faut qu'il ait une possibilité d'être immature. Donc, pour qu'un homme il soit tzaddik, il faut qu'il ait la possibilité d'être rachat. Ça s'appelle le libre arbitre. Est-ce que vous me suivez là? Je peux vous la refaire à l'envers.
Qu'un tzaddik avant d'être tzaddik, il a été rachat avant d'être
tzaddik. Non, il a le potentiel. Regarde, avec une bêche, tu peux trouver de l'or ou tuer ton voisin. C'est la même bêche. Oui ou non? Les outils ne définissent leur utilité que par rapport à ce pourquoi on les utilise. Par exemple, tu as des gens qui boivent la soupe avec une bêche. D'ailleurs, on le dit, la bêche. Ouais. D'accord. Bon, il n'a rien compris. Mais il l'utilise pour ça. Alors, si c'est comme ça, ça veut de quoi on parlait, parce que les blagues, ça s'inscrit mal dans le... Ah oui, le bien et le mal. Donc, si on comprend, il y a le bien et le mal. Alors, pareil ici. Il y a tzadik et racha. Et dans la vie, il y a le bien et le mal. Il y a des gens du bien et du mal. Dans la vie, il y a du mal. Dans la vie, il y a du bien. Mais, Rabotai, il faut savoir une chose, c'est que dans la vie, rien ne se perd, tout se transforme. Tout se distribue, tout s'investit, tout se reçoit. Alors, je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Imaginez, vous êtes assis avec Eliyahu Hanavi, à côté de lui, en bas de deux rues. Vous savez, imaginez, vous avez deux rues comme ça qui descendent, et il y a un bâtiment au milieu. Et les deux rues à cet endroit-là, elles se rejoignent. Et vous êtes là, vous regardez comme ça. Maintenant, vous voyez un type qui descend par la rue de gauche, et un type qui descend par la rue de droite. Les deux, ils descendent, tranquillement. Maintenant, Eliyahu Hanavi, il dit, viens, je vais te raconter une histoire. Il dit, tu vois celui qui descend par la rue de ce côté-là, là, la rue de gauche, regarde-le bien. Hein. T'as vu comment il est énervé? Tu le vois ou non? Ouais, il dit, ouais, ça se voit, il est énervé, là. Et t'as vu comment il est bâti? 2m12, 194 kilos. Ouais. 19 dan de taekwondo. 124 morts. Ouais, sur 92 combats. Ça veut dire que. L'arbitre. Un monstre, d'accord? Rocky 9, comme ça. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui arrive? Ouah, de gringaler. Ouais. On l'appelle l'ombre du courant d'air, la brise. Espèce de projection d'air liquide, d'accord? Rien. Transporté par la pente et la pesanteur. Maintenant, regardez bien. Eliaou, il dit ça, tu les vois déjà. Maintenant, viens, je te raconte l'histoire. Il dit, tu vois le petit gringalet là qui arrive là? Celui-là, il a fait une crasse de folie à un copain à lui. Il a fait une crasse, mais extraordinaire. Alors, soit, par exemple, l'autre, il lui a fait confiance, il lui a prêté de la marchandise, et lui, il lui a fait un chacun payé sur 24 millions de dollars. Et l'autre, il a créé une boîte pendant 30 ans, il s'est crevé, il lui a planté la boîte. Et il est content, il dit, c'est pas moi qui l'a planté, c'est la société. J'ai fait un dépôt de bilan. Un pourri dans l'âme. Ou là, il a fait adultère avec la femme de son meilleur copain, d'accord? Un pourri. Donc lui, il descend. Donc lui, il mérite une grande treha. Il contient cette treha. D'accord? Elle est potentielle, elle lui pèse au-dessus. De l'autre côté, il y a le monstre, là, 194 kilos. Il a été giflé par sa femme. Qui elle-même fait 314 kilos. 24 danes. Donc comme il frappe pas les femmes, surtout les femmes qui tuent, d'accord? Donc il est énervé, il a les nerfs. Et il cherche une tête à claque. Regarde, il dit, regarde. Celui-là, il mérite une grande treha. Celui-là, il a envie de mettre une bonne treha. Mazal tov. Ouais. Tu dis, c'est extraordinaire. Toi, tu dis, là, vraiment, Hachem, il fait bien les choses. Alors nous, on va dire, mais il n'y a pas de libre arbitre. Non, c'est logique. Lui, il avait une épreuve. Est-ce qu'il faisait une crasse à son copain? Est-ce qu'il la faisait pas? Maintenant, le fait d'avoir fait la crasse, il mérite la treha. Même s'il n'est pas religieux, il sait très bien qu'un jour ou l'autre, on paye. Comprenez? Quelqu'un qui a fait adultère, ou qui a fait inceste, lâché mishmor ou quoi, il sait qu'un jour, il va attraper ou une leucémie, ou un cancer, ou il va se faire arracher la tête par un bus, il va lui arriver quelque chose. Même s'il n'est pas religieux, il sait que c'est pas gratuit dans la vie. Rien n'est gratuit. Donc, il sait qu'il va prendre. Donc, en vérité, lui, dans sa culpabilité, il a préprogrammé la treha, mais il n'a pas calculer la proportion de la treha. Parce que malheureusement, on sous-estime toujours ses problèmes. Donc lui, il a ça dans la tête, il a un potentiel de prendre une treha parce qu'il a fait une grosse crasse. L'autre, il a une épreuve. Il sait que la personne qui va éclater, elle ne mérite pas forcément. Mais il a les nerfs. Qu'est-ce qu'il fasse? Il faut qu'il se défoule, il a la main qui brûle, comme ça, elle gonfle. Il a une main, la largeur de la table, vous voyez. Alors quand elle gonfle, elle est comme ça. Il faut qu'il étale quelque part. Ou il casse un mur, ou il casse une tête, il ne sait pas encore. Il cherche une tête à claque. Maintenant, il a une épreuve. Lui, une épreuve. Ou il se défoule, ou il ne se défoule pas. Lui, il avait une épreuve. Ou il faisait une crasse, ou il ne la faisait pas. Il a fait la crasse. Maintenant, son potentiel, c'est de prendre la treha. Lui, son potentiel, c'est de donner la treha. Vous allez me dire alors, si, regardez bien. Maintenant, il se rencontre les deux. Il y a deux scénarios. Si celui-là qui descend la rue, il n'a pas changé, c'est normal que quand l'autre vient, il lui met la treha. Ah non, ça dépend. Parce que maintenant, il y a deux libres arbitres qui vont se rencontrer. Celui-là qui descend la rue, il y a deux solutions. Soit il va pas changer, il va dire, bien tiens, je l'ai bien kiffé cet adultère. Hein. Je l'ai profité. Je l'ai planté, hein, mon copain. Voilà, il a pris la plus belle fille du lycée. Ben, moi, je l'ai pris, sa femme. S'il le kiffe bien, donc il mérite la mort minimum, qu'on lui crève les yeux. D'accord? Alors, il n'a pas changé, il n'a pas fait teshuva. Maintenant, il arrive l'autre en face. Maintenant, l'autre, où il va lui donner la terra ou non? Parce que où il va se dire, oh, une tête à claque. Il cherche une tête à claque, il trouve une tête à claque. Mais ouah, tête à claque. Et il y a déjà, la cible, elle est dessinée déjà. Il y a des gens, ils ont une tête. On dirait qu'ils te donnent les gants pour frapper. Ouais. Maintenant, lui, là, il est prêt, il a le libre arbitre. Ou il va lui donner la treha, il va dire, allez, je craque, je suis un rachat, c'est pas grave, allez, je ferai tchouva, il lui donne la treha. Ou alors, il dit, non, Hachem, il a dit, faut pas lever la main. À plus forte raison, faut pas baisser la main. Il donne pas. D'accord? Donc lui, il a un libre arbitre. Ou il donne ou pas. Et lui, il a un libre arbitre. Ou il fait tchouva ou pas. Parce qu'imagine, le même type, il est en train de descendre la rue. Et il a fait cette grave erreur. Et maintenant, il se dit, mais je suis fou, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais je suis un malade. Je vais arriver, je vais être puni, avec beaucoup quand il va savoir ça. Rien que mes parents, déjà, quand ils vont savoir ça. Je vais crever. Et lui, il va me regarder dans les yeux, il va me dire, t'as détruit une famille, t'as détruit une femme, t'as détruit des enfants. Je vais être comme ça, je vais être malade. Et il s'angoisse. Il prend son téléphone portable, il appelle Maurice, il faut que je te parle, voilà ce qui s'est passé, voilà, je t'en prie, excuse-moi, pardonne-moi, bon, ce que tu veux. Et il arrive en bas de la rue. Donc lui, il ne mérite plus la treha. En tout cas, pas de cette manière-là. L'autre, il lui reste une épreuve, où il va frapper, ou il ne va pas frapper. Alors, regardez bien, on fait le calcul. Si lui, il n'a pas fait tchouva et qu'il mérite la treha, et lui, il vient, il donne la treha. Lui, pour le fait qu'il a reçu la treha, c'est normal puisqu'il a mérité. Lui, il va être puni, pourquoi il a donné la treha? Mais non. C'est vrai que cette personne-là... C'est à qui ça? Ah oui. C'est déjà fait? Non. C'est comme ça, c'est ça. C'est vrai que cette personne-là, elle méritait de recevoir le coup. D'accord? Elle méritait de recevoir le coup. Mais cette personne-là, elle n'était pas obligée de la donner. Ça veut dire quoi? Hach Bokhu, il dit, voilà, écoutez, moi j'ai créé un monde, il faut du bien et du mal. Parce que l'évolution, elle va se faire grâce au bien et au mal. Maintenant, j'ai pas décidé qu'est-ce qui va être les acteurs du bien, les acteurs du mal. Hach Bokhu, il dit, voilà. Il met à l'annonce ANPE, il me faut des Rechaim. Il y en a qui lèvent la main. Il dit, moi je veux bien. Si vous cherchez, moi je me propose. Il veut faire la Vera. L'autre, il dit, non, je veux des Tzadikim. Et hop, il lève la main. Il y en a qui lèvent la main, l'autre il lève la main. Chacun il lève la main pour ce qu'il veut. Mais non. Celui qui lève la main pour faire du mal, Hach Bokhu, il va l'utiliser pour faire le mal. Parce qu'il a besoin. Blenara, il a besoin. Ouais. Celui qui veut faire du bien, Hach Bokhu, il va l'utiliser pour faire du bien. Maintenant, si quelqu'un il change d'avis, Hach Bokhu, il faudra qu'il trouve quelqu'un d'autre. Mais s'il ne change pas d'avis, il passe ce qui doit se passer. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il fait, Hach Bokhu? Il te laisse libre, à l'intérieur de ta colonne, de faire ce que tu as envie, le bien ou le mal. Mais sache une chose, si tu fais le bien, on va utiliser ton bien. Et si tu fais du mal, on va utiliser ton mal. Toi. Toi. T'as compris ou non? Toi, tu dis, moi, je veux faire du bien maintenant. Je veux faire. Tu veux? T'es rodef achar mitzvot. Alors que je m'en il va t'envoyer des mitzvot. Mitzvah, goret mitzvah. Tu veux faire une tzedaka? On va t'envoyer un ani. Tu veux faire une meutra sadim? On va t'envoyer un pauvre. Tu veux faire un bikoucholim? On va t'envoyer un malade. Alors que je m'en il t'envoie un malade qui a besoin d'un type qui donne. Et toi, tu vas donner. D'accord? L'autre côté aussi. Tu veux faire du mal à quelqu'un? On va donner quelqu'un qui mérite du mal. Rien ne se perd, tout se transforme. Rien, qu'est-ce qu'il fait avec Jouhou? Toi, tu es libre dans ton tuyau. Lui, il est libre dans son tuyau. Tu peux faire ou le bien ou le mal. Mais quand tu l'orientes à gauche, Jouhou, il oriente le sien à gauche. Quand tu l'orientes à droite, il l'oriente à droite. Oui ou non? Toi, tu as fait une crasse. Tu as volé 1 million de francs. Maintenant, tu sors de la banque, tu perds 1 million de francs. L'autre, il a fait une tova, il mérite 1 million de francs, il trouve le portefeuille. Ça va. Équitable. Ça s'appelle Tzedek. Oui ou non? Donc, Hach Bokhu, qu'est-ce qu'il fait? Il organise le mazal, ça veut dire quoi? Que chacun, il va recevoir exactement ce qu'il doit recevoir. Et quand même, il est complètement libre de faire ce qu'il a envie de faire. Pourquoi? Parce que lui, dans son choix de faire le bien ou le mal, c'est-à-dire entre le moment où il a un potentiel de bien et de mal, et au moment où il va exprimer le bien et le mal, il est libre. Là, il est libre. Mais après, ce bien et ce mal, ils vont être utilisés. Hach Bokhu, il récupère. Rien ne se perd. Tout se transforme. T'as fait du bien, hop, énergie de bien, elle va dans un circuit de bien. T'as fait du mal, énergie de mal, elle va dans un circuit de mal. Ah, pourquoi je suis puni? Pas pour la conséquence, pour mon acte à moi. Parce que la conséquence, je ne suis pas balabaït. Vous comprenez ça ou non? Je ne suis pas balabaït de la conséquence. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il va utiliser mon mal pour faire du mal, c'est parce que ce mal-là, il est nécessaire à cette personne-là qui elle-même a fait du mal. Quand Akadosh Baruch Hu, il va utiliser mon bien pour faire du bien, c'est parce que pour cette personne-là, elle méritait du bien. Si moi j'ai changé d'avis, alors je vous trouve quelqu'un d'autre. Ah, moi j'ai pas pu exprimer mon mal, va trouver un acteur pour le mal. On va trouver aussi une victime pour le mal. Et je vous crois, il organise tout ça. Cette gestion-là du mazal, maintenant on a tous les éléments. Je vais vous expliquer la prédétermination physique, qui sont les éléments pour utiliser. La prédétermination psychique, les éléments qui sont nécessaires pour te développer. L'âme, elle a un certain travail à faire. On te met en face de ça une épreuve, qui est le cahier d'exercice à partir duquel l'âme, elle peut révéler son potentiel positif ou négatif. Si elle l'utilise pour faire l'exercice en positif, elle révèle un positif. Ce positif-là, il est venu pour faire ton tikkun à toi, parce que toi, en tant qu'âme, numéro 122, tu avais un travail à faire. Mais à part ça, ce bien-là, il est nécessaire pour l'âme 124. Donc, il va être réutilisé pour l'âme 124. Et il y a une redistribution perpétuelle entre les énergies positives qui sont développées par les uns et les énergies négatives qui sont développées par les autres. Alors maintenant, regardez bien. Où est-ce qu'il est le mazal maintenant? Eh bien, le mazal, il est tout sauf dans la décision entre le moment où tu ouvres la bouche et le moment où ton acte, il est récupéré. Ça s'appelle la Bechira. Qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il veut. Tout le travail de l'homme, c'est quoi le ratson? C'est quoi le ratson? C'est l'expression. L'expression. Tu peux parler, tu peux agir et tu peux penser. Maintenant, tu penses, libre arbitre. Avec ta pensée, on va faire des choses. Une bonne pensée, Hach Bokhu, il est mitzaref, il fait quelque chose avec. Une mauvaise pensée, il fait quelque chose avec. Une bonne parole, il fait quelque chose avec. Une mauvaise parole, il fait quelque chose avec. Tout ce que tu as fait, toi, c'est parler. En vérité, nous, on fait pas le bien et le mal, on fait pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas nous qui redistribuons les énergies, on sait pas faire ça. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on décide de faire le bien, on crée un ange, comme ça dit le Nefesh HaChaim, qui va véhiculer le bien. Mais c'est quoi un ange? Un ange, c'est le véhicule de la volonté, comme l'ange, c'est le véhicule de la volonté d'Hachem. Vaishlach Malachim, Rachidi, Malachim, Mamash. C'est quoi? C'est la projection de la volonté du tzaddik. Un homme, il projette. Quand tu veux faire du mal, tu crées un ange de mal qui aménage le monde physique pour que tu puisses faire ton mal. Avera goret avera, que quand tu as fait du mal, ça crée un deuxième ange qui crée le prochain mal. Potentiel. Sur lequel tu vas faire du mal ou non. Ça veut dire qu'on installe le décor du bien et on installe le décor du mal. Et toi, tu te balades à l'intérieur du mal ou du bien. C'est toi qui décides. Ou ça continue ou ça s'arrête. C'est comme au jeu. Vous comprenez ou non? Tu joues, tu perds. Tu rejoues ou non? Tu rejoues, tu repères. Tu rejoues ou non? Tu rejoues, tu repères. Tu dis, mais peut-être je vais faire 100 fois la mise. Mais tu joues. C'est ça la vie. Qui est pas? Oui ou non? Si c'est comme ça, alors maintenant on a compris qu'en vérité, quand Akadosh Baruch Hu, il a mis devant moi la notion du mazal, cette notion-là, en vérité, c'est une notion qui est objective et subjective. Pourquoi? Parce que par rapport à Akadosh Baruch Hu, le mazal, c'est objectif. Par rapport à nous, c'est subjectif. Pourquoi? Parce que le mazal, c'est une combinaison. Hachem, dans le projet global, il sait où placer cette combinaison. Mais nous, on ne sait pas, au niveau unique, comment elle intervient, cette combinaison. En bien ou en mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de mal dans le monde. Il n'y a que des situations bien utilisées ou mal utilisées. En plus que chaque situation, c'est un outil. Si je l'utilise bien, c'est un bon outil. Si je l'utilise mal, c'est un mauvais outil. Avec la bêche, tu peux chercher de l'or ou tuer ton voisin. Donc pendant que je me crée une situation, ça n'existe pas le mal, puisqu'il a été créé pour faire le bien. C'est pour ça qu'il a dit Gamzu Letova, Ishgamzu, il a dit Gamzu Letova, Gamzu Letova. Les gens, ils croient Gamzu Letova, ça veut dire, ça aussi c'est pour le bien. Futur, mais ça c'est mal. Gamzu Letova, il a compris que même le mal c'est pour le bien. Par exemple, tu mets une baffe à ton fils, parce qu'il a fait une bêtise, d'accord? Tu dis, bon, la baffe, c'est pour qu'ils comprennent que c'est pas bien. Mais la baffe, en soi, c'est mal si on pouvait s'en passer. Non, parce que la baffe, elle montre que c'est grave. La preuve, t'arrives pas à le montrer autrement. Donc même la baffe, elle est bonne. Il y a femme.
Donc c'est quoi? Il faut foutre la baffe ou il faut pas foutre la baffe?
On va faire un cours sur l'éducation, il va comprendre. C'est un dosage, c'est comme dans tout. C'est un dosage. D'accord. Voilà. C'est comme ça. Non, mais ne me faites pas perdre le fil parce que j'ai perdu le fil, moi, déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, maintenant, il a un devoir d'utiliser les outils qui sont devant lui. Maintenant, ces outils-là, au niveau humain, ils sont libres. Mais au niveau divin, ils ne sont pas libres. C'est à toi d'en décider ce que tu vas faire avec. Alors, quand on dit Yesh Mazal, ça veut dire que devant toi, il y a des éléments qui se posent. Ils sont là, ils existent. Ça veut dire qu'on a prédéterminé des événements avec lesquels tu peux faire du bien ou du mal. C'est pour ça que je lui ai dit tout à l'heure, il y a un type, il a un accident de voiture. Alors, il dit, j'ai un accident de voiture. Alors, j'ai raté un rendez-vous et j'ai perdu $1 million. Donc, capara. L'autre, il dit, j'ai un accident de voiture. Il y a une personne qui s'est arrêtée, qui m'a emmené à la pompe à essence. Et cette femme-là, je l'ai épousée, c'est la mère de mes enfants. Ah, j'ai eu un accident de voiture. Donc, l'accident de voiture, il est bon ou il est mauvais?
Ça dépend ce qu'il donne.
S'il est dans un circuit de bien, il est bon. S'il a un circuit de mal, il est mauvais. Si tu l'utilises en bien, il est bon. Si tu l'utilises en mal, il est mauvais. Vous savez ce que c'est une mauvaise expérience? C'est une bonne expérience qui a mal été utilisée. C'est quoi une bonne expérience? C'est une mauvaise expérience qui a bien été utilisée. Donc, puisque la maturité, elle vient de l'expérience. Donc, quand quelqu'un, il a plus d'expérience, il a plus de maturité. Ah, tu dis, eh ben, tu vois, lui, il a de la maturité. Eh ben, ça veut dire qu'il a eu beaucoup d'épreuves. L'autre, il dit, ah, il est bêta. Ah, il n'a pas eu d'épreuves? Si, mais il les a pas utilisées. Comme quelqu'un qui ne fait pas les exercices à l'école. Il dit, mais j'ai compris la leçon, moi, c'est pas la peine de faire des exercices. Comme dans la vie. Les gens disent, mais j'ai compris la vie. Alors, ils esquivent les épreuves. Mais celui qui passe par les épreuves, il va jamais intégrer ce qu'il pense. Donc il ne le pensera jamais. Et comme on met des années à penser ce qu'on pense, donc les trois quarts des gens ne vivent pas ce qu'ils pensent, puisqu'ils ne le pensent pas. Oui ou non? Donc Hachem, il t'a mis des exercices pour que tu puisses réussir à devenir ce que tu penses. Alors ici, c'est pareil. Donc si on comprend ça, donc devant nous, en vérité, il y a un mazal. Il y a un mazal. Oui, il est fixé! Puisqu'un jour, il a été obligé de faire une prédétermination physique. Mais on va fonctionner à l'intérieur, on va pas fonctionner à l'intérieur. Alors là, il y a deux grandes écoles. Il y a l'école de Mordechai et il y a l'école de Haman. Qu'est-ce que c'est l'école de Haman? Le hasard. C'est quoi le hasard? Vous savez que Haman, c'est un grand croyant. Haman, c'est un très grand croyant. Très grand croyant. Vous savez pourquoi? Parce que Haman lui-même, il a dit, je vais choisir un mois. Il a dit, c'est bien que ça soit tombé pendant le mois de Hadar. Parce que pendant le mois de Hadar, les Bnei Israël n'ont pas des mitzvot à faire. Et comme ils n'ont pas des mitzvot à faire, ils ne seront pas protégés par les mitzvot. C'est un croyant. Il a dit, pourquoi, quand Achashverosh, il lui a dit, ah moi je ne vais pas tuer les Bnei Israël, c'est dangereux parce que après que je brouille, ils nous éclatent. Il a dit, non, t'en fais pas, ils sont mefuzarim. Ouais, et ils ne font pas le. Je sais pas comment on dit le pasuk. En omdim badat.
Ouais.
Datem shonim. Rashi, là-bas, il explique, ou je ne sais plus qui il explique. Il dit, ils ont, datem, c'est date, c'est la mitzvot, les mitzvot. Il dit, ils ne font pas les mitzvot. Tu peux les attaquer, puis ils ne font pas les mitzvot. C'est qu'Amalek, il est très croyant, puisqu'il sait très bien que quand les Bnei Israël, ils ne font pas les mitzvot. Rashi, il dit là-bas dans la paracha d'Amalek, Anechechalim, ceux qui s'étaient affaiblis, c'est quoi? Parce que vous savez que les Bnei Israël, ils étaient protégés par les Anan et Kavod, quand ils étaient dans le désert. Ils étaient protégés par les sept nuées. Donc ils étaient invisibles. Oui? Donc on les voyait pas. Donc comment ils ont pu les attaquer les Amalekis? Pourquoi? Parce que là-bas c'est marqué Anechechalim, les gens qui étaient Rechaim dans le peuple d'Israël, les Anan et Kavod, ils les repoussaient. Ils se retrouvaient dehors. Tac! Qu'est-ce qu'il y a dehors? Amalek. C'est pareil. Un homme, il est dans le peuple juif. Maintenant, il a accompli les mitzvot. Il dit, moi, les mitzvot, ça m'intéresse pas. Où il se retrouve? En Bretagne. Il se dit, mais comment ça se fait? Moi? Ouais. Marlouf, si je portiche? Je suis en Bretagne. Ouais. J'ai épousé Christine Duport. J'ai quatre enfants. Frédéric, Nicolas, Maximilien et Sultan. Son berger allemand, d'accord? Il dit, mais qu'est-ce que je fais ici, moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Il n'y a même pas une génération, j'étais grand rabbin de Tunis. Et maintenant, je me trouve maire de Quimper-les-Bergerecs, là-bas. Qu'est-ce que je fais là? Les Anan et Kavod, mon frère. Les gens, ils croient. Moi, je fais ce que je veux. On t'a jeté. Les gens, ils croient qu'ils font ce qu'ils veulent, ils croient que c'est ça la liberté, ils sont jetés. La liberté, c'est où tu fais la mitzvah ou tu ne la fais pas, quand tu peux la faire. Mais quand tu t'es enlevé les moyens de la faire, tu n'es pas libre de ne pas la faire, parce que tu ne peux pas la faire. Quand un type dit, moi, je n'étudie pas la Torah, mais de toute façon, tu ne sais pas étudier, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton Issaïon? Il a 200 chaînes de télé et il n'a pas un livre de Torah. Où elle est son épreuve? Si quelqu'un il sait étudier la Torah, et il a le chasse, et il a la télé, tu peux dire qu'il a le libre arbitre. Mais quel libre arbitre il a celui-là? Il sait même pas ce que c'est la Torah. Il sait même pas la valeur de la Torah. Il connaît même pas la richesse de la Torah. Il dit, ben moi, j'étudie pas la Torah. Mais de toute façon, tu pouvais pas faire autrement. Comment t'aurais pu faire le contraire? Tu vois, le matin, tu vas te lever, tu vas dire, tiens, je crois que je vais être mehadesh, une couchette sur Rabbi Akiba Eiger. Tu savais même pas qu'il existait. Comment tu vas faire? Comprenez ou non? Les gens, ils croient qu'ils gardent le libre arbitre. C'est pas vrai, mon frère. Ah, je vous crois, il a dit, natati lefanecha et tahaim vetamavet. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Ou baharta machaim, j'ai choisi la vie. Maintenant, quand quelqu'un il a choisi la mort, plus il est vers la mort, moins il est vers la vie, hein. Vous comprenez ça? Quand quelqu'un s'éloigne de Montréal, il se rapproche de Miami. C'est une loi physique. Donc quand tu t'éloignes d'un point, eh ben, tu t'éloignes d'un point. Donc tu peux pas dire, je m'éloigne et je suis à la même distance. Plus tu t'éloignes. Donc quand quelqu'un s'éloigne, il peut pas dire, je repars quand je veux. Quand quelqu'un il sort de l'autoroute, il a beau dire, il a beau faire, il sera obligé de refaire le même nombre de kilomètres pour retourner sur l'autoroute. Donc quand quelqu'un dit, moi ça fait 10 ans que je suis sorti de l'autoroute, eh ben j'ai libre arbitre, c'est faux, il n'a pas libre arbitre. Il a mangé de la touma, il en a jusque là, il a moins de libre arbitre. Il a vécu dans la touma, il a moins de libre arbitre. Il a un environnement de touma, il a moins. Il n'a pas de kedusha dans la maison, il n'a pas. Donc il a 0,2 de kedusha. Parce qu'il a, la couverture d'un Petah Eliyahu qu'il n'a pas voulu jeter à la poubelle. Voilà la kedusha qu'il a. Ouais. Alors tu vas croire que tu l'as la libre arbitre? Il n'y a pas de libre arbitre à Bretagne. Il faut être clair. Ici c'est pareil. Si quelqu'un y comprend. Maintenant il y a deux grandes chitas. Il y a la chita de Haman et la chita de Mordechai. Mordechai lui, il sait très bien qu'un homme, il a devant lui le bien et le mal. Comme Aman, il sait très bien qu'un homme, il a le bien et le mal. La preuve, c'est que Aman, il a profité du mal des Béné Israël pour en taper dessus. Parce qu'il sait que quand les Béné Israël, ils s'affaiblissent dans les mitzvot, Amalek, il est fort. C'est marqué dans le Zohar que Amalek, c'est le chien de berger. Quand les moutons s'écartent, le chien, il arrive. Donc les gens, ils disent, oh, l'antisémitisme, le racisme. Si un juif, il fait ce qu'il a à faire, il n'y a pas. La preuve, c'est que l'antisémitisme, c'est la seule forme de racisme où le goy, il te dit, mais tu es juif. Toi, tu dis, moi, j'enlève la kippa. Lui, il dit, mais une étoile. C'est marrant, non? Mais une étoile. Il dit, mais ça fait 4 générations que je suis marié avec des Allemandes. Mais une étoile. N'oublie pas ton identité. Donc, le travail de Amalek, c'est de te rappeler l'identité que toi, tu nies. D'accord? Donc, c'est comme ça. Voilà, il y a le mazal selon Amalek, selon Aman. Il y a le mazal selon Mordechai. Les deux, ils sont conscients que le mazal existe. Les deux sont d'accord. Mais c'est comme la marloquette dans Shabbat, là-bas, Yesh mazal et Israël ou En mazal et Israël. Alors, il y a un mazal ou il n'y a pas de mazal? Alors, la halakha, c'est En mazal et Israël. Mais c'était quoi la marloquette avant de savoir la halakha? C'est quoi la marloquette? Alors, la marloquette, c'est comme ça. Celui qui dit que Yesh mazal et Israël, ça veut dire que il pense qu'un homme, il est prédéterminé, oui. Et il peut pas échapper à cette prédétermination. En tant qu'individu. En tant que communauté, on peut changer un mazal. Mais en tant qu'individu, on peut pas changer un mazal. Celui qui pense que En mazal et Israël, c'est qu'il dit, on est prédéterminé, mais un homme, par la tefila et par la teshuva, il peut changer son mazal. Or, regardez bien. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a le monde physique. Regardez, il y a le monde physique. Et il y a le monde du mazal. Le monde du mazal, c'est le logiciel de gestion du monde physique. Ça va ou non? Or, au-dessus, du mazal, il y a Shakai. Shakai, c'est le nom qu'on écrit sur la mezouza. C'est le nom qui est cholette à la mazalote. Ouh, c'est le nom d'Hachem qui maîtrise le mazal. Et celui-là, il est placé au-dessus de la matière. Puis il est au-dessus du mazal. Et à Kadosh Baruch Hu, il a proposé à Avraham Avinu une alliance, un brit. Quel brit? Le brit des mitzvot. Qu'est-ce que c'est la mitzvah? C'est un lien privilégié entre l'homme qui est matière, et Hachem, Yudke Vavke, qui est au-dessus de Shakai, qui est au-dessus du mazal. Donc Avraham Avinu, il est sorti de son mazal, qui était de ne pas avoir d'enfant. Je lui ai dit, tu fais le brit avec moi, tu sors, tu n'as plus de mazal. Le brit, c'est l'alliance avec l'antimatière. Le mazal, c'est l'alliance avec la matière. Le mazal, c'est le spirituel de la matière. Oui? La mitzvah, c'est le spirituel du spirituel de la matière. Ajbourri te dit que tu choisis ou les mitzvot ou la matière. Alors il dit le mandama Yesh Mazal, El Mazal Israël, c'est quoi? Un homme, il peut se rapprocher d'Hachem. Ou par la tefila, c'est comme ça. Ou par la teshuva, c'est comme ça. Ou de l'intérieur, tu retrouves Hachem à travers ta neshama. Parce que quand tu as la boucha, tu as la honte de la teshuva. Et que tu déchires toutes les voiles qui te séparent de ta neshama, tu retrouves Hachem à l'intérieur. Donc la teshuva, c'est retrouver Hachem par l'intérieur. La tefila, c'est retrouver Hachem par l'extérieur. Tu t'exprimes, tu sors, tu vas retrouver à Kadosh Baruch Hu les Ma'ala Minateva. Donc le mandama, que En Mazal Israël, ça veut dire qu'un homme, s'il sort de sa conjoncture physique, il peut échapper au mazal. Mais si un homme, il se maintient dans sa conjoncture physique, il est soumis au mazal, c'est prédéterminé. Alors, le grand combat entre Mordechai et Aman, c'est quoi? Aman, il dit, écoute, un homme, c'est un homme. Comme tu vois les gens, ils te disent, écoutez, un homme, c'est un homme. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ils te disent, nous sommes de chair et de sang. Ils te disent, Avraham Avinu, c'était un homme aussi. Franchement. Ouais. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un homme aussi. Alors la Gemara, elle dit, si eux, c'était des hommes, nous, on est des ânes. Et pas n'importe quel âne. Maintenant, si les gens de la Gemara, ils se considèrent comme des ânes, d'où qu'est-ce qu'on est, nous? Nous, on doit être l'ombre d'une vapeur d'excréments. En gros. C'est vrai, il faut pas avoir honte de le dire. Vous comprenez ou non? Si quelqu'un vous dit, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Rami Meir Balanes? Ah, Rami Meir Balanes! Et qu'est-ce que tu penses de Rami Meir, bon, comme ça, qui a épousé Christine? T'as compris? C'est pareil. Si quelqu'un, il comprend qu'il y a une distance effroyable entre nous et eux, alors il comprend ce que ça veut dire qu'il faut... Il faut se regarder, il faut savoir qui on est. Ici, c'est pareil. Maintenant, moi, j'ai devant moi ces deux potentialités. J'ai un potentiel où je regarde la vie comme Amalek, où je regarde la vie comme Mordechai. Qu'est-ce qu'il a dit, Mordechai? Mordechai, il a dit, on a un mazal. D'accord, on a un mazal. Mais on peut s'en sortir. On peut dépasser la matière. Si moi, je décide de dépasser la matière, j'ai plus de mazal. Il n'y a plus. Ah, tu dis, mais tu vois bien que le mazal existe dans la Torah? Oui, le mazal, quand il s'agit de déterminer les voies que Hachem m'a demandé, mais que moi, je ne peux pas savoir, là, je passe par le mazal. Comme Yitzhak. Comme Eliezer, il devait choisir une femme pour Yitzhak. Ça, il peut pas décider une chose pareille. Pourquoi? Parce que lui-même, Eliezer, il avait un problème, et dit le Midrash, parce qu'il voulait donner sa fille à Avraham Avinu. Donc il savait que lui, il pouvait pas choisir. Parce que lui, n'importe qui l'aurait dit, il aurait dit, elle est pas terrible. Parce qu'il voulait qu'elle épouse sa fille. Donc pour pouvoir échapper à ses intérêts qui l'empêchent de regarder objectivement, il s'est mis entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les intérêts, c'est ce qui nous empêche de voir la vérité. Or, dans le monde, il n'y a que deux pôles. Il y a le pôle des intérêts et le pôle de la réflexion. Les gens intelligents, c'est les gens qui sont libres de leurs intérêts. Les gens idiots, c'est les gens qui sont soumis à leurs intérêts. Maintenant, un homme, il peut avoir un QI de 185. S'il est soumis à ses intérêts, il est bête. La preuve, c'est qu'il est prêt à dire des bêtises du moment qu'il sauvegarde ses intérêts. Par exemple, tu dis un scientifique. Franchement, le monde, il s'est fait tout seul.
Franchement. Il dit oui.
C'est pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a envie de dormir avec la femme du voisin. Or, si le monde s'est fait tout seul, il n'y a pas de volonté supérieure. S'il n'y a pas de volonté supérieure, il n'y a pas d'autorité. S'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de morale. S'il n'y a pas de morale, il n'y a pas de direction. S'il n'y a pas de direction, on fait ce qu'on veut. Si on fait ce qu'on veut... Alors, si on fait ce qu'on veut... Et si le monde ne s'est pas fait tout seul, il s'est fait à cause d'une autorité. Cette autorité, elle a exprimé sa volonté. Si elle a donné de sa volonté, il faut l'appliquer. Si il faut l'appliquer, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc, la lutte contre les intérêts, c'est l'intelligence. La soumission aux intérêts, c'est la bêtise. Cette destruction des intérêts s'appelle la recherche de la vérité. Oui ou non? Maintenant, le monde extérieur, physique, il est un monde de mensonges. Alma de Shikra. Si moi je cherche l'essentiel, je passe à travers le monde. Comment il s'appelle la perception de l'essentiel à travers le monde physique? La spiritualité. Donc quand je cherche la mitzvah à l'intérieur du monde physique, puisque le monde physique, c'est l'intérêt qui cache la vérité, donc comme j'enlève l'intérêt, je vois la vérité. Donc la recherche de la mitzvah à l'intérieur du monde physique, c'est de se rentrer dans le non-mazal qui est la non-matière. Puisque la matière et le mazal, ça va ensemble. Et la matière et l'intérêt, ça va ensemble. Donc transitivité, la mitzvah, c'est la non-matière et le non-mazal. Donc quand Dieu il te dit « cherche la mitzvah », tu échappes au mazal. Et tu échappes à tes intérêts. Mais si toi, tu cherches tes intérêts, donc tu cherches la matière. Donc qu'est-ce que c'est un rachat? Un rachat, c'est quelqu'un qui justifie ses intérêts. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui dénigre ses intérêts. Celui qui dénigre ses intérêts, il voit la vérité. Celui qui justifie ses intérêts, il reste rachat. Aman, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi on va se prendre la tête à lutter contre nos intérêts? On n'a qu'à se laisser aller par nos intérêts. Donc lui, il ne veut pas avoir la vérité. Pas qu'il ne peut pas avoir la vérité, il ne veut pas avoir la vérité. Donc puisqu'il ne veut pas avoir la vérité, il reste ses intérêts. Puisqu'il est dans les intérêts, il reste dans la matière. Puisqu'il est dans la matière, il est dans le mazal. Donc il est soumis au mazal. Donc le goy, il est soumis au mazal. Parce qu'il refuse l'alliance qui l'oblige à se séparer de ses intérêts. Donc maintenant, la lutte, elle est claire. Ou quelqu'un, il veut échapper à ses intérêts et il échappe au mazal. Ou quelqu'un, il participe à ses intérêts et il participe au mazal. Alors maintenant, celui qui fonctionne selon le hasard, c'est en vérité celui qui fonctionne selon ses intérêts. Celui qui veut les ma'alamina mazal, c'est celui qui va contre ses intérêts, la preuve. Qui c'est qui va contre ses intérêts? Le tzaddik. Parce qu'il se remet en cause. Celui qui se remet en cause, il remet en cause ses midot. Donc il remet en cause son corps. Donc il remet en cause son yetzerara. Donc il remet en cause la matière. En plus qu'il est antimatière, il est mitzvah. Comprenez ou non? Alors que le rachat, lui, il a envie de se conduire selon son corps. Et son corps, il a des intérêts. Et les intérêts, ils sont cachés par la matière. Et lui, il est intéressé par la matière. Donc, il est soumis à la matière et il est soumis au mazal. Donc, en vérité, dans le monde, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui veulent être dans la matière, il y a des gens qui veulent être au-delà de la matière. Celui qui veut être dans la matière, il a un mazal qui est tout près. Il suffit qu'il se laisse porter. Celui qui veut être au-dessus de la matière, on appelle ça un tzaddik, il n'est plus dans le mazal. Aman, c'est le représentant du mazal. Mordechai, c'est le représentant du non-mazal. Maintenant, vous allez dire, mais alors c'est facile les catégories. Non, c'est pas facile. Parce qu'on a besoin de gens qui participent à la matière. Et on a besoin de gens qui participent à l'antimatière. On a besoin des gens qui pensent que la matière c'est important, que la conjoncture c'est important, que la mise en place du monde est important. Parce qu'il faut des gens qui fassent ce monde-là de matière. Pour que nous, on puisse l'utiliser pour faire des exercices. Alors toi, tu vas choisir. Ou tu vas être un tzaddik qui a compris qu'on est là pour dépasser la matière. Ou tu vas être quelqu'un qui va créer de la matière pour que le tzaddik puisse la dépasser. Est-ce que tu vas être un but? Est-ce que tu vas être un moyen? Tu décides. Les gens qui décident d'être des moyens, alors ils sont soumis au mazal. Et ils le disent eux-mêmes. Ils te disent, vous savez, en ce moment, ça va pas, c'est la conjoncture. Ceux qui ne sont pas soumis à la conjoncture, ils disent, mais ça ne veut rien dire la conjoncture. Ce qui compte, c'est la volonté humaine. Un homme, il dépasse la conjoncture, il dépasse les moyens. Le produit, il est pourri, mais moi, je suis un bon vendeur. La situation, elle est naze, mais moi, je vais éclater la baraque. Le bateau, il coule, mais moi, je vais sauver toute ma famille. Donc, celui qui a la volonté, il dépasse le matzav. Ça s'appelle qu'il dépasse le mazal et il dépasse la matière. Or, endavar omed lifna ratson, il n'y a rien qui tient devant la volonté. La volonté, c'est quoi? C'est l'énergie qui sort de la neshama. Donc, quand quelqu'un, il exprime sa neshama, ça veut dire qu'il l'a fait sortir à l'extérieur pour ne pas la soumettre au monde de la matière. Ça s'appelle qu'il existe. Si quelqu'un ne veut pas exister, donc il est soumis à son corps. Puisqu'il n'existe pas, donc il reste à l'intérieur. Donc il reste un potentiel. Donc il est soumis à la matière. Donc il est soumis au mazal. Donc il est soumis à la conjoncture. Donc celui-là, il est porté par la conjoncture. Donc maintenant, tu as le libre arbitre devant toi. Hein. Tu dis, est-ce que moi je vais subir ce qu'on me fait subir? Ou est-ce que moi je vais décider d'optimiser ce qu'on me donne à choisir? Et ce choix-là, c'est le choix de Haman et le choix de Mordechai. Il y a des tzadikim qui vont venir chez vous, ils vont dire, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que vous faites des averot. C'est vrai que le monde, il est matériel. C'est vrai que c'est plus facile la télé. C'est vrai que c'est une tannée. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux mourir ou tu veux vivre? Tu veux mourir ou tu veux vivre? Rechaim bechayim enam chaim. Les rechaim de leur vivant ne sont pas vivants. Pourquoi? Parce que être vivant, c'est exister. Le racha, il n'existe pas puisqu'il est resté à l'intérieur. Parce que sa neshama ne s'est pas exprimé. Donc il est mort, puisque celui qui n'existe pas est mort. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il existe. Mordechai et les tzaddikim, ils te proposent, ils te disent, mais existe! Tu dis, mais je peux pas, j'ai un mazal. Alors dépasse ton mazal. Comment? T'es chouvin. Comment? T'es fila. Le rachat, il te dit, mais non, qu'est-ce que tu veux faire de toute façon? On est comme on est. On est comme on est. On vit dans la réalité aujourd'hui. On n'est pas dans la terre d'Israël. On est au 20e siècle. On a la télé. Les femmes sont belles. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comme ça, ils pensent les gens. Et tu dis, c'est pas possible. Je peux pas. C'est trop difficile. La matière, c'est dur. Tu veux manger cachère, il faut faire 10 km. Là, c'est facile. C'est ta ref. Il y en a partout. C'est facile. Tu vois, eux, ils disent, la matière, c'est la matière. Eux, ils sont Aman, Amalek. Quand c'est marqué, il faut détruire Amalek, il dit, Rabbi Chizkiya Levinstein, il faut d'abord enlever le Amalek intérieur de nous. Parce que nous aussi, on dit, Ben Beno Shel Karaou, nous aussi, on dit, bon, ben, c'est par hasard, hein, c'est une coïncidence, hein. On dit, nous aussi, on dit, bah, c'est la force du docteur, hein. Écoutez, c'est la force de la maladie, hein. C'est la gravité du problème, hein. C'est la suite des événements, hein. C'est le flot de la vie, hein. C'est la force de la situation, hein. Donc nous, on s'inscrit dans le mazal, nous, on s'inscrit dans la matière, parce qu'on n'a pas envie de se dépasser, on n'a pas envie d'exister, on n'a pas envie de devenir. Alors automatiquement, on rentre dans la matière, et on est géré comme la matière. Or, il faut savoir que HaKadosh Baruch Hu, il ne gère pas du tout de la même manière celui qui est soumis à la matière et celui qui n'est pas soumis à la matière. Pourquoi? C'est la différence entre la Hashgacha Klalit et la Hashgacha Pratit. Hashgacha Pratit, c'est quoi? C'est que comme toi, regardez bien, tu as décidé d'être toi-même. Or, toi, tu es une personne personnelle, puisque tu as une âme différente de tout le monde, puisqu'on a chacun une âme différente. Maintenant, si toi, tu exprimes ton âme, donc ton âme différente, elle va exister dans le monde. Donc, tu vas être personnellement différent. En plus que tu es différent, puisque tu existes, puisque tu as décidé de dépasser ta conjoncture de monsieur tout le monde pour être toi-même. Donc, puisque tu es toi-même psychologiquement, et toi-même spirituellement, et toi-même physiquement. C'est pour ça que les chassidim, ils ne s'habillent pas comme les goyim. Ils vivent pas comme les goyim, ils font rien. comme eux, parce qu'on a bien compris maintenant. O ataoler bechukot aolam, o ataoler bechukot abnei Israël. Qu'est-ce que c'est les chukim d'abnei Israël? Bechukotai telechu. C'est quoi? Amalim batorah. C'est quoi les chukot des goyim? Rashi dit théatraot et cirque, je sais pas comment il dit. Ouais, les cirques et les théâtres. Ça veut dire le chok du goy, c'est quoi? C'est quoi pour être un bon goy, c'est quoi? Festival de Cannes. Et c'est bien, c'est pour ça. Lui, il est dans la matière, donc il gère la matière. Maintenant, comme le goy, il a évolué, avant il disait j'ai envie de bouffer une femme toute nue. Alors, on dit c'était un homme de Cro-Magnon, d'accord? Maintenant, il dit maintenant on fait un festival du film érotique. Donc c'est un art. C'est la même chose qu'avant. Vous comprenez ou non? Eux, ils disent ils disent moi je suis un gourmet. Nous, on dit t'es un morphal. C'est la même chose. C'est-à-dire que, c'est quoi la définition? Un rabbi, il avait dit comme ça. Il a dit un goy, quand il veut se permettre une chose dégueulasse, il en fait un art. Ou une religion. Comprenez ou non? La prostitution, c'est pas beau. Mais si ça rapporte, c'est bien. Qui c'est qui profite? L'État. C'est pas légalisé parce qu'il faut pas exagérer. Mais enfin, ça rapporte beaucoup quand même. Donc c'est pas entièrement interdit. T'as compris comment c'est? C'était ambigu chez le goy. Pourquoi? Parce qu'il n'ose pas dire ce dont il a envie. Par exemple, il a volé. Il dit, bon, c'est pas bien de voler, mais ça revient quand même moins cher. T'as compris ou non? C'est pareil, ici. Le juif, son choc à lui, c'est Tiyu Amalim Batora. Le choc du goy, c'est Théatraot. Maintenant, un juif, il décide. Il fait, qu'est-ce que tu fais, toi? Il dit, moi, je suis juif, moi. Tu décides, mon frère. C'est quoi le but de ta vie? Le foot. Le football américain. La télé, les lectures, le baseball, les femmes, la bouffe. Alors, qu'est-ce qui te reste de juif? Alors, puisqu'il n'y a que de la matière, alors, automatiquement, tu rentres dans la matière. Donc, ça marche selon la matière. Donc, ça va selon la conjoncture. Donc, ça va selon la santé. Ça va selon la médecine. Ça va selon les microbes. Ça va selon les accidents de la route. Ça, c'est un olam de mazal du goy. C'est pas pour nous, ça, normalement. C'est pas comme ça pour nous, nous. Nous, les ma'alaminateva. Aucune logique, aucune logique. Ashgacha pratit, ashgacha klalit. C'est comme la culture des orchidées et la culture de la pelouse. Ça veut la différence entre les deux? Une orchidée, une par une, c'est une fleur unique. Tu la tailles, tu la trucs, tu l'approches. Et la pelouse, tu vas t'asseoir devant chaque brin d'herbe, tu lui dis, t'es content de vivre? Tu te sens bien en ce moment? Il est sympa ton copain? Non, tu prends la tondeuse et vas-y. Tu passes la tondeuse, ashgacha klalit. Tu passes les orchidées, ashgacha pratit. Si tu vas dire, mais pourquoi c'est comme ça, c'est injuste? Mais c'est toi qui voulais être personne. C'est toi qui voulais te fondre dans la masse. C'est toi qui as dit, moi je veux être comme tout le monde. Moi je veux pas être différent. Pas qu'on me regarde avec mon chapeau, avec ma barbe, avec ma kippa, avec mes tzitzit kata. Moi je veux être comme tout le monde, moi, monsieur Durand, monsieur Dupont. Et l'accent. Ouais? Comme tu veux être comme tout le monde. C'est toi qui veux être comme tout le monde. Alors on va te juger comme tout le monde. Donc on va te gérer comme tout le monde. Comment on gère tout le monde? 4235 accidents de la route. Il manque un. Prends David. 4734 grippe. Prends celui-là. Là. Lui, il dit toujours, ah, mais tu sais, la grippe, hein, ça peut arriver à tout le monde. Eh ben, pourquoi pas toi? Allez, vas-y. Encore, elle dit non. T'es malade? T'es chouva, pas de maladie. Qui dit, attendez, je vais vous expliquer, ne vous énervez pas. Vous avez compris déjà comment ça marche? Donc, c'est pareil ici. Donc, quand un homme, il a compris le lien qu'il a avec la matière, donc le lien qu'il a avec le mazal, donc le lien qui peut être ou dans la matière ou en dehors de la matière. Quand quelqu'un il s'épanouit psychologiquement, il s'épanouit spirituellement, il s'épanouit physiquement, eh ben ça va ensemble. Quand quelqu'un il s'épanouit pas spirituellement, il s'épanouit pas non plus psychologiquement, donc il reste à l'intérieur. Comme il reste à l'intérieur, il est emprisonné par la matière, comme il subit la matière, il subit le mazal. Ça c'est l'école de Ramalek. Et ça c'est l'école de Mordechai. Ça c'est le hasard. Ça, c'est la providence. Maintenant, chacun, il décide où est-ce qu'il va, dans quelle situation il se développe. D'accord? Alors ça, c'est ce qu'on a besoin de savoir au niveau de la conférence. Maintenant, les exceptions, il faut les connaître aussi, c'est normal. Maintenant, c'est quoi les exceptions? C'est que, moi, je vous ai parlé par rapport à la moyenne. Ça veut dire que quand quelqu'un naît, il a devant lui deux démarches possibles. Il peut choisir ou Amalek ou Mordechai. Maintenant, il y a un extrême dans la situation de Amalek et il y a un extrême dans la situation de Mordechai. Alors, l'extrême dans la situation de Mordechai, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un, il atteint un niveau où il est complètement libéré de la matière, il est sadique complètement, alors à ce moment-là, puisqu'il n'a plus besoin d'exister pour lui, alors il peut entièrement décider d'exister pour les autres. Parce qu'il y a deux façons d'exister pour les autres. Soit parce que tu n'existes pas, donc tu t'es annulé ta personnalité, on a dit, d'accord? Donc tu fais partie de la masse, donc on te gère comme la masse. Ou alors, tu t'es tellement développé que Tzadiki et Sodre Olam, au lieu d'exister pour toi, tu vas exister pour les autres. Alors elle dit, la Gemara, les Tzadikim, eux, ils souffrent en kapara pour les Averot du Dor. Pourquoi? Parce qu'ils aiment tellement les Bnei Israël. Et puisque Ahava, c'est Ardout, donc ils font un avec les autres. Donc comme un père, il est prêt à souffrir à la place de ses enfants, le tzaddik, il est prêt à souffrir à la place des autres. Donc la logique des gens avant le tzaddik, c'est que quand tu fais des bêtises, tu subis les conséquences. Et tu prends la Terecha pour te ramener, ou tu es récompensé pour te conforter. Mais à partir du moment où tu atteins le niveau de tzaddik, et tu n'existes plus pour toi, tu existes pour les autres, donc maintenant les punitions que tu reçois, c'est pas pour toi, c'est la kapara pour les autres qui, eux, ne font pas ce qu'ils devraient faire. Donc la vraie question, c'est pas pourquoi les tzadikim y souffrent. La vraie question, c'est pourquoi les rechaim y souffrent pas. Ça, c'est une question, ça. Question de folie. Vous comprenez? Voilà. Et ça, c'est un extrême. L'autre extrême aussi, c'est, dans Aman aussi, il y a les exceptions. C'est quoi les exceptions? C'est que tu es un rachat, producteur de porc, organisateur de spectacles de stripteaseuses, proxénète à Jérusalem. Tu dis, un chazir comme ça, comment il peut être vivant? Il est quand même vivant celui-là. Alors, à part le fait qu'on a dit qu'il y a des acteurs du bien et des acteurs du mal, il faut aussi des acteurs du mal. Il a choisi des acteurs du mal. D'accord. Mais le fait qu'il soit acteur du mal et qu'il va subir à cause de ça du bien, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Alors là, il faut regarder la Gemara dans Brachot. Elle dit que Moshe Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Tzadik Veralo Racha Vetovlo. Comment ça se fait qu'il y a des Rechaim qui ont du bien dans ce monde? Et comment ça se fait qu'il y a des Tzadikim qui ont du mal dans ce monde? Il a répondu, Racha ben Tzadik et Tzadik ben Racha. Alors c'est quoi le sens? C'est pas qu'il y a un Tzadik qui est fils de Racha ou un Racha il est fils de Tzadik, c'est pas ça. C'est en vérité, la Gemara l'a expliqué là-bas. C'est pas la Gemara qui explique, mais un commentaire explique comme ça. Il dit, en vérité, on parle de Gilgoul. Ça veut dire quoi? Si un homme, il était Tzadik dans le Gilgoul d'avant, ouais. Alors, et on l'envoie dans un Gilgoul et lui, il devient Racha. Puisqu'il devient Racha maintenant dans ce Gilgoul-là, alors on va le récompenser du bien qu'il avait fait dans l'autre Gilgoul, on va lui payer dans ce Gilgoul-là. Donc il va recevoir du bien en tant que Racha. Si quelqu'un, il était Racha dans un autre Gilgoul d'avant, ça c'est Ben et Av, d'accord? D'accord. S'il était Racha dans un autre Gilgoul et on l'a envoyé dans un Gilgoul encore pire, et qu'il a relevé le défi, il a grandi, il est devenu tzadik, d'accord? Alors qu'il avait un potentiel de Racha. Donc, au contraire, les Averot qu'il avait fait en tant que Racha, on va lui faire en souffrance ici, dans ce monde-ci, pour réparer, pour qu'il soit complet par rapport au Gilgoul d'avant. Racha ben Racha. Donc tu peux trouver que la finalité de Aman, ça peut être du bien, comme tu peux trouver que la finalité de Mordechai, ça peut être du mal, et il n'y a pas de question. Oui ou non? Après, on va prendre dans le sens inverse, comme ça vous aurez la totale. Et la cassette sera complète. C'est aussi, tu peux dire, mais comment ça se fait qu'un enfant, il vient hein, à 9 jours, il est mort. Alors oui, qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Quel mal il a fait? Alors tu reprends l'histoire du Gilgoul à l'envers. Comme tu l'as pris dans ce sens-là, tu la prends dans l'autre sens. Que cet enfant-là, en vérité, il a fait 612 mitzvot. Et la 613e, c'est la Brit Mila. Il a fait, mais il lui manquait un tout petit truc. Et pour ce petit truc qui lui manquait, par exemple, il manquait que le Moël, il ait une certaine Kavana à l'intérieur de la Mila, on l'a renvoyé dans ce monde. Et lui, il a fait la Mila. Et le Moël, il a eu la Kavana. Et comme il a fini son Tikkun, on n'a pas envie qu'il reste plus longtemps et qu'il risque de perdre tout le bénéfice de ce qu'il a gagné dans les autres Gilgoulim. Alors on lui dit, allez, tu rentres à la maison. Ah, tu vas me dire pourquoi les parents ils souffrent? Les parents c'est une autre aventure. Eux ils souffrent parce qu'eux ils ont fait des autres bêtises. Ou dans ce Gilgoul là ou dans le Gilgoul d'avant. Et qu'eux ils ont fait souffrir quelqu'un. Peut-être qu'ils ont fait Zera Levatala. Peut-être qu'ils ont fait des avortements. Alors on dit, tu veux savoir ce que c'est la perte d'un enfant? Alors regarde ce que c'est la perte d'un enfant. Vous comprenez ou non? Voilà. Alors est-ce que tout le monde est clair? Est-ce que je pense avoir répondu à toutes les questions? Et s'il y en a auxquelles je n'ai pas répondu, alors on les répondra avec la venue du Mashiach.